Et bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live où je suis tout seul aujourd'hui. Je fais la mise au point avec des moyens high-tech. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je suppose que oui. Moi ça va, ça va. Je vous avoue, je suis un petit peu éreinté, un peu fatigué, mais c'est normal après une journée de travail. Et ouais, je suis dans une période où je suis vraiment le nez dans un script là, donc je suis assez monomaniaque. Et voilà. Mais sinon, tout va bien. J'espère qu'on s'approche de quelque chose. Il y a encore pas mal de travail, mais on a déjà eu un round de relecture sur un premier petit bout. Sujet un peu pas évident. Et du coup, ça nous laisse deux possibilités qui est... alors, by Pandum, c'est le script sur la thermo ou sur la partie 2 du charbon? C'est sur la thermo. J'avoue que la partie 2 du charbon, je sais pas. Le charbon, c'est pas une vidéo qui a fonctionné tant que ça. Faudrait vraiment que je fasse la partie 2. Et ça pourrait être l'occasion de réfléchir sur comment les émissions se réduisent dans le monde. Mais je sais pas trop quand je pourrais m'atteler à ça. Parce que, en gros, je lance des trucs à droite, à gauche et après, j'arrive pas à suivre. Donc, en fait, j'ai un peu une queue de sujets. Et clairement, la priorité, ça sera pas la partie 2 du charbon parce que je me suis engagé avec d'autres personnes sur d'autres sujets. Je pense quand même que c'est une vidéo très importante à faire et je la ferai, mais sur la temporalité, ouais, c'est un peu plus difficile. La vidéo sur le charbon, non, je pense qu'elle est quand même, elle est quand même importante. C'est pas la réception qui fait la différence, c'est vraiment mon organisation ou ma désorganisation ou le fait qu'à chaque fois que je traite un sujet, je vais creuser un peu trop profond et du coup ça prend toujours un peu de temps. Voilà. Sujet de la prochaine vidéo reste secret. Non, ça sera sur de la thermo. Après, je sais pas encore vraiment ce qu'on en dira parce que c'est un sujet qui est hyper vaste. Donc on pourrait discuter un peu de ça si ça vous intéresse. Le charbon, je ne suis pas sûr de la vignette et tu pourrais éventuellement faire tester les vignettes sur le Discord avant. Ouais, ça serait une bonne idée. Moi, je l'aime bien la vignette. Après, c'est quelqu'un qui passait en live et qui a eu vraiment la même idée de faire cette vignette pour moi, quoi. Ça m'a bien dépanné parce que j'étais un peu dans le dur. Ouais, ça serait une bonne idée de tester les vignettes. Après, quand je les fais faire par quelqu'un, ça suppose que déjà en temporalité, je sois assez bon. Mais ça serait une bonne idée. C'est vrai que ça joue beaucoup et je pense que sur ces trucs-là, je suis pas très fort. Vignette, titre, etc. Alors, je vais regarder juste combien vous êtes sur le Twitch, comme ça. Pardon. Je vais couper le son. Comme ça, je vais voir si ça vaut le coup de faire un petit sondage éventuellement ou j'attends encore un peu. Donc voilà, me demandez pas de trucs sur l'actualité ou quoi. 45. On peut faire un tout petit sondage. Puis après, c'est pas exclusif. On pourra très bien changer en cours de route, mais je me rends pas compte à quel point. En fait, je me rends compte que vous n'êtes pas forcément le public type de Twitch, mais je me rends pas compte à quel point ça va vous saouler si on joue un peu ou si je blablate. Dans tous les cas, ce serait pas très long ce soir parce que mine de rien, passer la journée sur la thermo, ça te lessive le crâne. Ça me permet de me rappeler pourquoi j'ai été au rattrapage de thermostat quand j'étais en école d'ingé. Voilà. J'ai des très bons souvenirs de ce rattrapage précisément. Surtout le moment où le prof m'a demandé bon, il vous faut combien pour que vous n'ayez pas à revenir? J'étais pas hyper serein sur ma thermostat. Après, on est pas, on va pas dans tous les trucs très compliqués. On va éviter de passer des formules, etc. Enfin, on va surtout présenter les concepts, mais présenter correctement les concepts de thermo, c'est pas évident. Quand t'as un physicien qui te dit, si quelqu'un te donne une définition de l'entropie, c'est qu'il a pas compris le concept. C'est dur, quoi. Et pour l'instant, il y a des gens qui votent thermo, voulaient me voir mourir. On peut discuter de thermo en vrai. Alors, il faudra juste que je me rappelle. Est-ce que j'ai un navigateur là? Ouais, parfait, parfait. On peut parler un peu de thermo. On peut improviser là-dessus et qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais peut-être pas vous infliger des cours de thermo, mais je pourrais vous montrer des trucs cool qu'on voit dans nos recherches et un peu peut-être aussi sur pourquoi on fait ça. Parce que ça peut être. C'est une vidéo dont l'utilité n'est pas aussi immédiate que de parler d'éolien ou de photovoltaïque. Et d'ailleurs, on pourrait dire que c'est juste parce que je trouve ça intéressant comme sujet, ce qui serait une raison suffisante. Mais je pense que c'est quand même un peu un sujet sous-jacent dans la manière dont certaines personnes conçoivent les problèmes environnementaux. Il y a des réflexions qui peuvent venir de la thermo de manière explicite parce que certaines personnes essayent d'utiliser des arguments venant de la thermo, ou même implicite parce qu'on a tous, enfin, pardon, parce que certains d'entre nous ont été exposés à des concepts de thermodynamique pendant leur cours, et souvent c'est assez éloigné de ce qu'on fait quand on essaie de comprendre l'évolution des sociétés humaines ou le système Terre, et ça fait que il y a des intuitions qui sont pas trop en phase avec ce qu'on pourrait dire physiquement, quoi. Donc, attendez, je vais regarder, vous en êtes où? Ah, vous votez pas trop là? Ouais. Ou alors tout le monde a déjà déserté en voyant que mon débit de parole de ce soir est à peu près la moitié de celui d'habitude. Ça vous décourage. Ok. Alors, je peux essayer. Comment je peux introduire ça peut-être Je peux peut-être vous trouver une figure qui fait peur. En fait, ce qu'on va éviter de faire, c'est de vous infliger les concepts de thermo. Donc, je vais essayer d'aller le plus rapidement au but. Et comment je peux faire ça? Attendez, je vais télécharger ce papier. Hop, 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 hop. Je peux essayer de vous introduire le problème, peut-être. On va essayer de faire ça. Je ne promets rien. Elle est très moche cette figure. Ok, je vais essayer de trouver mieux. Ouais, il y a les vidéos. Alors, on pourrait faire ça aussi. On pourrait regarder. Oui, en fait, ça ouvre plusieurs questions parce que il y a plusieurs manières dont on pourrait parler de la thermo. Je pourrais vous parler un peu de ce sur quoi on a planché surtout jusqu'ici, qui est un peu voilà, qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que l'entropie, le premier, le second principe, les questions de machine thermique. Qu'est-ce que ça veut dire une évolution de l'entropie ou qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Alors surtout que nous on le fait surtout dans le cadre de la thermodynamique, donc dans le cadre vraiment des sciences de l'ingénieur, de l'efficacité des transformations, des pertes d'énergie, etc. Et puis il y a un truc à mon avis qui est un peu plus intéressant qui serait de vous expliquer ce que ça peut faire quand on regarde ce que pourrait donner des quantifications d'entropie au niveau du système Terre. Par contre, ça sera beaucoup plus approximatif, mais ça vous permettra peut-être de saisir pourquoi c'est un sujet important ou pas. Vous pourrez essayer de me comprendre que c'est pas ouf. Mais Bipandu, moi, effectivement, j'ai vu la vidéo de Veritasium, et puis il y a aussi des vidéos, notamment de patience sur l'entropie. Après, c'est intéressant pour comprendre les concepts d'entropie, etc. Mais ça parle pas trop du sujet qui va nous intéresser rapidement, hein, dans notre travail, qui est plus qu'est-ce que ça implique pour le système Terre et les quantités d'énergie en jeu, etc. Alors, il y a un premier truc, peut-être on peut partir là-dessus, qui permet de comprendre un peu ce qui nous intéresse. Là, c'est un poster qui est très compliqué. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on voit là-dessus. Et c'est des travaux de thermodynamique qui sont un peu basiques. Disons que pour avoir des quantifications à cette échelle, il faut faire beaucoup d'approximations, ce qui a certaines limites. Et il y a même des choses dans le papier qui est derrière. On ne va pas faire le papier, mais que j'ai pas compris, ou pire, que j'ai pas compris et que je pense un peu faux. Et notamment ce truc de extrasolar radiation, là, je suis pas du tout serein sur le fait que ce potentiel existe vraiment. Alors là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde une notion de thermodynamique qui est intéressante et qui est liée un peu à, enfin, qui est liée directement à celle de l'entropie. C'est une notion qu'on appelle l'exergie. Et si vous êtes des fans de la chaîne Le Réveilleur, c'est une notion que vous avez déjà rencontrée. Parce que dans la première vidéo de la série sur l'énergie, je parlais de cette exergie. Attendez, je vais juste changer le titre, comme ça les gens qui sont passionnés de thermodynamique arriveront sur le live. Et cette notion d'exergie, c'est la partie de l'énergie qu'on peut convertir en travail. Donc vous avez un travail à chaque fois que vous appliquez une force, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un déplacement, une production d'électricité ou ce type de transformation, c'est qu'il y a eu un travail en jeu. Et en fait, nous, dans beaucoup de nos transformations du monde réel, on a besoin de travail, voilà, pour usiner, pour déplacer des masses, pour déplacer des personnes, pour broyer la soupe, pour beaucoup de choses. On a besoin de travail. Et donc, du point de vue de l'ingénieur, cette unité qu'on appelle l'exergie est extrêmement utile. C'est comme ça qu'on peut optimiser des machines, par exemple. Ce qu'on essaie de maximiser, c'est, voilà, le travail qu'on tire d'une différence de potentiel. Ça peut être une différence de hauteur, de pression, ou une différence de chaleur. Et quand il y a une transformation qui est irréversible, il y a une augmentation d'entropie. Donc en fait, quand il y a une augmentation d'entropie, ce que vous allez observer, au sens vraiment thermo, hein, ce que vous allez observer, c'est une réduction de l'exergie. Et donc l'exergie, quand on réfléchit à par exemple, est-ce qu'on peut remplacer les ressources fossiles ou vers quelle source d'énergie alternative on pourrait se tourner? Voilà, quelle est l'exergie disponible dans l'environnement pour, enfin, quelle est l'énergie disponible dans l'environnement pour faire du travail? On se pose souvent cette question de quelle est l'exergie au final. En fait, l'exergie, c'est un terme qui est beaucoup plus proche de l'usage courant qu'on fait du mot énergie. Quand vous dites le matin en vous levant, j'ai plein d'énergie aujourd'hui, il y a un truc qui est, voilà, je veux changer le monde, je suis capable de me mouvoir et tout, alors que l'énergie n'est pas associée forcément à une transformation. Vous voyez, l'énergie qui est sous forme de chaleur dans cette pièce là à température ambiante, je peux pas en faire grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie. Et donc l'exergie, c'est un calcul de thermo qui va permettre de vraiment se faire une idée de qu'est-ce qu'on peut récupérer comme travail de l'environnement. Et là, on va d'abord s'intéresser aux flèches. Hein. C'est une figure qui est très compliquée à lire, mais je sais pas si on la montrera dans la vidéo, parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais ça permet de se rendre compte de choses intéressantes. Donc quand on s'intéresse aux flèches, vous voyez, là, il y a des petits pointillés en rond, et ça, c'est les destructions d'exergie naturelle, on y reviendra, c'est le cas aussi ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'au bout des flèches ici, ça, c'est ce qui est utilisé comme puissance par les sociétés humaines. Donc ces ressources fossiles, charbon, pétrole et gaz, on voit que la majorité de ce qui est utilisé par les sociétés humaines, c'est ici, et c'est des volumes qui se rapprochent de on doit être à une douzaine de terawatts. Donc c'est une puissance, et si vous multipliez ça par toutes les secondes dans une année, enfin plutôt toutes les heures, si vous voulez rester en terawatt-heure, bah vous aurez la quantité totale utilisée par l'humanité sur une année. Ok, il n'y a pas trop de questions pour l'instant. On utilise évidemment un peu de biomasse et de biofuel. Et on utilise un peu d'hydroélectricité. Et c'est un papier qui est vieux, hein, ça doit être 2005. Donc en fait, le photovoltaïque et l'éolien étaient, et l'éolien, pardon, étaient encore très faibles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder ces flux qui existent dans l'environnement. Et par exemple, en fait, ce qui fait tourner la Terre, enfin pas au sens propre, ce qui fait la Terre d'un point de vue thermodynamique, c'est un système qui est hors équilibre. Il y a tout le temps du mouvement, des choses qui grandissent, des échanges de chaleur et tout sur Terre. On n'est pas à l'équilibre thermodynamique, on n'est pas dans cette situation où il n'y aurait plus aucune transformation. L'équilibre thermodynamique, c'est ça, c'est une situation où il n'y a plus aucune transformation. Donc la Terre, c'est vraiment un système qui est constamment en dehors de l'équilibre, et on est maintenu en dehors de l'équilibre parce que on a un flux d'exergie qui arrive, qui est ce rayonnement solaire. Et en fait, ce qui se passe, si vous connaissez un peu le premier principe, deuxième principe, c'est que on a de l'énergie qui arrive. La Terre, normalement, s'il n'y avait pas de changement climatique, on devrait émettre vers l'espace exactement autant d'énergie. En fait, on en émet un peu moins, mais on peut dire qu'on en émet pratiquement autant. Mais ce qui se passe un truc entre les deux, c'est que on reçoit un flux d'une source de chaleur qui est très chaude, qui est le Soleil, et on émet à une température qui est beaucoup plus faible, qui est la température de la surface terrestre ou de l'atmosphère. Ça dépend où il y a l'émission. Et en fait, cette différence entre les deux fait que sur Terre, l'entropie peut se réduire. Donc sur Terre, ces deux flux permettent qu'il y ait constamment une production d'entropie qui est possible parce qu'on peut exporter de l'entropie vers l'espace. Donc ça, c'est vraiment un truc clé à comprendre. C'est faut sortir de la réflexion des boîtes à chaussures et des systèmes fermés. La Terre, c'est un système qui est ouvert parce que la Terre reçoit constamment ce flux d'énergie, et on peut dire, hein, c'est le cas ici, ce flux d'exergie. Et donc c'est vraiment le soleil qui permet sur Terre les mouvements de l'atmosphère, la croissance des végétaux, beaucoup, beaucoup de mouvements. Triple Fontaine, c'est ici qu'on parle d'enthalpie, d'entropie et d'énergie libre. Bah, on parle d'exergie, mais c'est un concept qui se rapproche beaucoup du concept d'énergie libre. Et honnêtement, je ne saurais pas vous dire toutes les petites nuances entre les différentes fonctions d'état. Je vous donne un truc très qualitatif ici. Ça va être attaqué, peut-être, c'est pas grave. Enfin, je vous le dis, on est un peu le nez dans notre soupe là. J'essaye de vous rendre des trucs. Vous me dites si c'est intéressant, vous me dites si ça vous fait réagir. Le but, c'est pas d'avoir un cours de thermo extrêmement précis et exact. C'est de vous faire passer certaines idées, et les vidéos qui viendront derrière seront elles normalement plus pointues, plus exactes. Après, je sais pas ce qui restera dedans parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire que c'est un peu compliqué. Mais voilà. Et donc, sur Terre, on a ce flux d'exergie. Alors, je vous mets, pour ceux que ça intéresse, on est tombé sur un bouquin. Je travaille avec Jean-Loup sur cette vidéo. On est tombé sur un bouquin de thermo qui est plutôt cool, et son auteur est très sympa en plus. Donc on a un flux d'énergie, on pourrait dire, un flux d'énergie de bonne qualité qui nous vient du Soleil, qui permet de faire plein de transformations sur Terre. Et en fait, ce qui est important à comprendre, et un truc qui n'est pas souvent compris, c'est que l'immense majorité de ce flux d'énergie est perdu par un procédé qu'on appelle de thermalisation. Je sais pas si on dirait ça aussi en français. Et en fait, l'idée, c'est juste, vous avez un rayonnement qui vient d'une source qui est très chaude, qui est le Soleil. Ce rayonnement, il est absorbé par la Terre, et juste parce que on est loin du Soleil et qu'on a une géométrie sphérique, etc., eh bien la Terre, vous l'avez peut-être remarqué, est plus basse en température que le Soleil. Et du coup, ça fait que quand nous, on rayonne de l'énergie vers l'espace, eh bien, c'est c'est un rayonnement de moins bonne qualité, dont on peut moins faire de travail. Donc on passe d'un rayonnement de bonne qualité à un rayonnement de mauvaise qualité. Et même si la Terre, c'était un caillou, où il n'y avait aucune transformation, où il n'y avait aucune plante, où il n'y avait pas d'agitation, il n'y avait pas d'atmosphère, etc., il y aurait ce truc-là. Voyez, un astéroïde qui prend du rayonnement solaire, il produit de l'entropie juste par son existence. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des transformations de la matière pour qu'il y ait production d'entropie. Ça peut être juste ce type d'interaction. Et donc là, un astéroïde qui se promène dans le système solaire, il détruit de l'exergie, il détruit un truc dont, vous voyez, du rayonnement solaire, on peut mettre un panneau photovoltaïque dessus et en profiter pour jouer à la PlayStation. Il détruit ce potentiel juste en étant là, en chopant ce rayonnement de bonne qualité et en émettant un rayonnement de moindre qualité. Et ça c'est important que... De le comprendre parce que ouais, c'est un système dissipatif. On peut le dire comme ça. Il y a une dissipation de l'énergie. Donc, il y a beaucoup du potentiel de travail qu'on pourrait avoir sur Terre qui est juste détruit par cette interaction-là. Alors après, si on regarde un peu dans les détails, si vous vous souvenez de la vidéo sur l'effet de serre, là, il y a une partie de l'énergie solaire qui va être renvoyée vers l'espace. Et donc là, vous voyez que ce rayonnement qui est renvoyé vers l'espace, on ne modifie pas sa qualité. C'est une réflexion, donc ça reste du rayonnement solaire. Et donc là, c'est directement de l'exergie qui est renvoyée vers l'espace. Et après, on va avoir des absorptions dans l'atmosphère. On va avoir une partie de l'énergie qui va servir à évaporer. On va avoir une partie qui réchauffe la surface. Et après, l'exergie de ce qu'on... Alors, il y a aussi des réflexions à la surface, pardon. Et après, il va y avoir... je peux peut-être vous montrer un autre schéma. Il faut que je me rappelle où je l'ai vu. Et après, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir, par exemple, les différentes absorptions sur Terre. Ça fait que, à cause de la géométrie sphérique notamment, la température à la surface de la Terre, c'est pas la même partout. Et donc là, vous allez avoir des différences de température qui vont permettre des mouvements de matière et notamment les mouvements de l'atmosphère. Si vous regardez, si on regarde la Terre depuis l'espace, est-ce qu'on peut regarder la Terre depuis l'espace ? Terre. Bon, je ne sais pas si je trouverai une vidéo cool, mais si on regarde la Terre. Depuis l'espace, on voit des mouvements dans l'atmosphère. Alors les comprendre finement, ça demanderait d'expliquer un peu les rotations, les différentes cellules, etc. Mais si vous regardez, bon, je l'aurais pas, c'est pas grave. Mais ces mouvements depuis l'espace sont liés à des différences de température, entre autres, hein, notamment les mouvements ascendants. Et donc vous allez avoir une partie ce rayonnement solaire qui va être converti en différence de température, qui va mettre en mouvement l'atmosphère. Et là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez exploiter. Hein. C'est notamment ce qu'on fait avec des éoliennes. Alors là, faut pas voir ce chiffre-là comme ce qui est possible d'exploiter avec des éoliennes, parce qu'on parle vraiment de l'ensemble du mouvement de l'atmosphère. Les éoliennes sont au niveau du sol et il y a des contraintes supplémentaires. On ne peut pas arrêter complètement cette masse d'air, etc. Il y a des calculs qui sont compliqués à faire à ce niveau-là. Je ne suis pas convaincu de toutes les quantifications, mais ça donne un peu les ordres de grandeur. Et après, on a par exemple l'évaporation, hein, qui va permettre de récupérer l'énergie sous forme de... Est-ce qu'ils mettent ? Ouais, chemical et gravitationnel. Donc, gravitationnel, c'est assez facile à comprendre. Hein. Vous avez de l'eau qui est prélevée au niveau du sol, qui va condenser dans l'atmosphère plus haut et qui va tomber. Et c'est notamment cette gravité qu'on exploite avec l'hydroélectricité. Et vous voyez que c'est pas des volumes de fou, hein, la gravité sur l'ensemble de la planète, de l'eau qui redescend, c'est pas des volumes de fou par rapport à ce qu'utilisent des sociétés humaines. Donc si leurs calculs sont à peu près corrects, on pourrait pas remplacer les ressources fossiles en termes d'exergie juste avec de l'hydroélectricité, quoi. Et voilà. Ah oui, et puis il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est cette question de la photosynthèse. Et en fait, il y a un truc, je pense, que j'avais pas vraiment pris conscience avant de me pencher un peu sur ces questions-là, c'est à quel point la photosynthèse est inefficace. C'est inefficace pour différentes raisons, mais notamment parce que bah, les végétaux ont plein de contraintes, hein, pas seulement l'énergie accessible, et notamment aller récupérer du CO2 dans l'atmosphère qui est à très faible concentration, on parle quand même de 0,04%, et ben, c'est compliqué. Et donc la végétation, en fait, elle va essayer de choper cette exergie-là. Vous voyez, la végétation, elle prend vraiment le rayonnement solaire, c'est une interaction qui se fait de la capture de photons de bonne qualité, parce que ça vient d'une source chaude. Et donc la photosynthèse ne repose pas sur, par exemple, des différences de température. Hein. Elle n'a pas ces contraintes-là. Elle n'a pas les contraintes des machines thermiques. Elle pourrait vraiment. Elle va à la source et elle essaye de taper dans cette immense source d'exergie. Mais le rendement, il n'est pas incroyable, ce qui fait que ce qui reste après sous forme d'exergie dans les végétaux, donc en fait sous forme de molécules dont on pourrait tirer un travail, par exemple ben en la brûlant du bois dans une machine thermique, ou nous par exemple hein, quand on mange, là je fais un travail, on dirait pas hein, que les youtubeurs travaillent, mais là je fais un travail, et ça on le tire directement ou indirectement de la photosynthèse, hein. Directement si vous mangez des carottes et indirectement si vous mangez des steaks. Et donc là, nous, on est branchés sur ce flux-là. Et il y a un autre truc assez ouf, et je ne sais pas si on en parlera de ça, c'est si vous regardez ce qu'on appelle la production primaire nette, donc en fait, vous prenez tout ce que la végétation produit comme matière organique par cette production primaire, hein, par photosynthèse, et vous retirez ce qu'elle utilise pour elle, parce que les arbres aussi, ça respire, vous avez un truc qui s'appelle la production primaire nette, et vous prenez ça sur les continents, et en fait, l'humanité s'empare à peu près de la moitié de ça. Soit directement parce qu'on la mange, ce qui n'est pas toujours le cas, soit indirectement parce qu'on la fait manger à nos animaux, ou un peu, voilà, pour de la biomasse, du biofuel, c'est pas les plus gros postes, hein, et un peu pour des matériaux, mais les plus gros postes, c'est vraiment notre système agricole prend bah, pas loin de la moitié de la surface, et ça veut dire que on s'empare de la moitié de cette production primaire nette. Et ce qui veut dire que finalement, ce qu'on pompe comme exergie directement et indirectement pour notre système alimentaire, c'est plus important que ce qu'on pompe sous forme de ressources fossiles. Le réveilleur, la photosynthèse, pas efficace. Bah, pas efficace dans le sens conversion de ce rayonnement en énergie potentielle chimique. C'est. Franchement, si vous calculez ce type de rendement par rapport à ce que reçoit comme exergie une feuille, par exemple, vous allez être sur des rendements moyens qui sont, je me souviens même plus, mais je dirais de l'ordre de 0,2%, quelque chose comme ça. Alors que. Et c'est un truc qu'on retrouve et qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, un panneau photovoltaïque va avoir un rendement pour ce type de conversion qui va être autour de 15%. Et ça a une implication qui est très importante, qui est en fait quand vous réfléchissez à transport électrifié VS agrocarburant, voilà, est-ce qu'il vaut mieux des voitures électriques ou des voitures au bioéthanol? En fait, en termes de surface utilisée par kilomètre déplacé, il vous faut 100 fois moins de surface si vous mettez du photovoltaïque. Donc ça c'est un peu des enseignements qu'on peut tirer de ces trucs qui paraissent très très abstraits. Et vous pouvez faire les calculs autrement, hein. Vous pouvez juste regarder combien d'électricité vous pouvez tirer d'une surface en mettant des panneaux et combien vous avez de litres de bioéthanol et comparer les deux. Et vous retomberez à peu près sur ce truc de deux ordres de grandeur. Et ça permet de comprendre aussi pourquoi la biomasse à des fins énergétiques a des limites, quoi. Il y a des limites en termes de potentiel. Et puis comme je vous ai dit, le fait qu'on sucre déjà la moitié des surfaces pour le système agricole fait que c'est pas une si bonne idée de l'étendre. De l'étendre là-dessus. Donc voilà, c'est un peu des trucs à la main. Alors, Casbion 93, ouais, bonne remarque. Du coup, c'est juste parce que ça prend une petite limite du spectre, parce que pour moi, j'avais bien en tête que la photosynthèse a une très bonne efficacité quantique dans l'absorption de photons. En fait, très, très, très bonne remarque. Alors, ça serait pas mal si j'arrivais à retrouver. Attendez, je vais essayer de trouver dans mes 28. Dans mes 28. Dans mes 28 trucs ouverts, la bonne réponse, mais pour aller vite, la bonne réponse, c'est que cette étape dont tu parles, qui est la capture des photons, donc vraiment préserver l'exergie au moment de l'absorption de cette énergie, la photosynthèse est efficace. Et l'endroit où elle perd quasiment tout, c'est, si j'ai bien compris, de réussir à capturer du carbone de l'atmosphère. Je ne sais pas si j'aurai le bon. Je peux essayer celui-là, mais c'est pas forcément le même, c'est un papier sur. Sur les limites qui s'appliquent à l'éolien. Est-ce que je peux le récupérer? Ça va être facile, ça. Ok. Et je pense qu'il en parle aussi ici. Donc la première conversion est intéressante, mais c'est carbon fixation qui décroît pas mal, qui décroît pas mal ce potentiel. Ce qui fait que voilà, en termes de bioénergie, en fait, on a une efficacité totale qui est plutôt faible. Et c'est pareil en termes d'éolien, parce que au lieu de capturer le rayonnement solaire, on va essayer de capturer les masses d'air qui sont mises en mouvement par la différence de température qui est liée au fait qu'on a absorbé différemment ce rayonnement solaire entre l'équateur et les pôles. Et donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des dégradations qui sont assez importantes. Hein. Là, quand on passe de ça à ça, bah, il ne reste plus grand-chose ici. Et si on regarde juste au niveau du sol, il en reste encore moins. Et en fait, c'est vraiment l'idée d'aller se déplacer vers ce flux-là, quoi. Et c'est pour ça. En fait, si on faisait des paris à moyen long terme, on va dire. Je sais pas, la société humaine finalement s'en sort et continue de se développer et continue d'utiliser davantage d'exergie ou même essaye d'utiliser la même chose qu'aujourd'hui mais plus proprement. Ça, c'est pas illogique d'aller vers ce flux-là d'un point de vue thermo parce que le potentiel là est énorme et surtout on a des moyens maintenant de conversion qui sont plus intéressants que la photosynthèse. Donc là, il y a un énorme gisement. Et en fait, quand vous réfléchissez comme ça vraiment en termes de limites thermo et de limites un peu ultimes, hein, parce qu'il peut y avoir plein de limites avant. Hein. C'est pas parce que ces réserves-là existent, par exemple, qu'on sait aller les chercher. C'est vraiment. Il peut y avoir des limites techniques, il peut y avoir des limites économiques, il peut y avoir des limites politiques. Et je dirais même que ces papiers qui font des calculs un peu sommaires, parce que c'est très très dur à faire ces calculs, ça donne une approximation et ça donne une limite haute. Mais quand vous réfléchissez en termes de limite haute, en fait, c'est vraiment. C'est une ode au photovoltaïque, parce que le potentiel. Est immense par rapport à ce qu'on utilise. Mais là aussi, c'est des choses qu'on entend des fois. Je pense que vous avez déjà entendu que l'énergie consommée par l'humanité en une année, c'est à peu près ce qui arrive en une heure sur Terre sous forme de rayonnement. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui est traduit ici. Mais c'est marrant que la plante rappelle aussi la difficulté de captation et séquestration du carbone à cause de sa forte dilution. Ouais, non, mais c'est certain. Et après, bon, on va passer vite fait sur les stocks parce que c'est compliqué de convertir de tête des étajoules. Là, on parle de stock d'énergie en téraoctets ou on parle de flux. Mais il y a un autre truc aussi, c'est si on décale la question un peu sur les stocks et sur la radioactivité et le nucléaire, bon, on en utilise un tout petit peu. Mais là aussi, on voit c'est des stocks qui sont vraiment gigantesques par rapport à l'utilisation. Et voilà, donc la difficulté un peu quand on réfléchit à la thermo comme ça, c'est qu'est-ce que ça nous apprend au final? Ça nous apprend qu'il y a une grosse quantité d'exergie autour de nous et que la limite n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Hein. Si je vous lâche en canot au milieu de l'océan, vous allez mourir déshydraté alors que vous êtes entouré d'eau. Bah, c'est un peu l'idée. C'est pas parce que cette exergie est là. Qu'on peut la récupérer facilement ou qu'on peut aller se brancher dessus, on peut imaginer des contraintes ou des limites, mais n'empêche qu'on ne peut pas dire que c'est pas là. On ne peut pas dire que les ressources fossiles nous apportent une énergie qui est très grande par rapport à ce qui nous est accessible dans l'environnement. Dans l'environnement, on a la Terre est baignée d'un flux d'énergie qui est pour l'instant énorme par rapport à l'utilisation des sociétés humaines. Et il y a une autre implication à ça qui est assez intéressante, c'est des fois il y a la conception que utiliser l'énergie ou produire de l'entropie est mauvaise en soi, qui est une conception que j'ai de plus en plus de mal à comprendre. Et en fait, ce que vous pouvez voir là comme une perte d'exergie, vous pouvez le traduire mentalement comme une augmentation de l'entropie. Quand il y a ce genre de thermalisation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de production d'entropie. Et en fait, sur Terre, il y a des quantités faramineuses d'entropie qui sont produites par rapport à ce que produisent les sociétés humaines, et ça a toujours été le cas. Vous voyez, le problème, c'est pas la production d'entropie. Et nous, au final, on n'en produit pas tant que ça, parce qu'on manipule des quantités d'énergie qui sont limitées par rapport à ce qui circule sur Terre. Par contre, ces petits trucs, ces transformations qu'on fait, qui sont petites par rapport à l'ensemble de ces flux, je pense que cette image le rend très très bien. Ces transformations de petite échelle d'un point de vue énergétique, en fait, ont des impacts monstrueux sur le système Terre. C'est mine de rien, d'un point de vue destructif, on est très très fort par rapport à l'énergie qu'on dépense pour ça ou par rapport à l'entropie qu'on crée pour ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus important de se focus sur quels sont les problèmes, quelles sont les pollutions, que sur la consommation d'énergie ou de la production d'entropie, qui sont parfois utilisées un peu comme des approximations des impacts. Et je pense que c'est très faux. C'est faux. N'importe quel système qu'on appelle des structures dissipatives, donc n'importe quel système qui s'organise, ce qui est le cas des sociétés humaines, ce qui est le cas des êtres vivants, vont produire de l'entropie. Personne ne dirait la forêt amazonienne produit de l'entropie, ce qui est vrai, donc c'est mal. Il y a toujours ce glissement qui est un peu difficile. Voilà, on peut continuer de parler de ça. Si on continue de parler de thermo, ça sera à peu près à ce niveau d'abstraction. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte. Parce que voilà, j'ai pas préparé. J'ai le nez dedans, donc je vous dis un peu ce que j'ai en tête. J'ai pas de préparé, j'ai pas de support, de support, etc. Donc c'est. Ça vaut ce que ça vaut. Dites-moi si ça vous intéresse et sinon on peut aller jouer un petit peu ou je peux m'arrêter là en avouant que j'ai mal préparé mon truc. Ce qui arrivera de temps en temps quand je suis dépassé. Est-ce que je peux encore voir le sondage? C'est quoi mes projets actuellement? Bah, je bosse sur la thermo et là je suis perdu dedans. J'essaye de bosser un peu en parallèle, mais ça avance pas sur une vidéo sur le numérique. Mais pareil, il y a pas mal de sujets intéressants et je sais jamais trop quoi en faire. C'est pas toujours évident de savoir ce qui est pertinent à présenter, quoi. Surtout quand comme moi on va souvent peut-être un peu loin, on se retrouve avec beaucoup de choses différentes et il faut faire une sélection qui est assez drastique quoi. Ah, j'ai déjà dû entendre les chansons de Muse là-dessus, Water Said 1, mais je vois pas trop. Et après, ouais, les autres projets, je donne des cours tout début avril et il va falloir que je les prépare un petit peu. Et donc, c'est dans 2 semaines. Et après, je prends une dizaine de jours de vacances en avril parce que j'aurai pas trop l'occasion cet été. Donc là, c'est un peu dur. Est-ce que je prépare les vidéos seul? De la lecture au moment où tu postes. Alors, là, en l'occurrence, je bosse avec Jean-Loup Fourquet, que vous avez déjà vu, de la chaîne YouTube Après la bière. Souvent, je travaille assez seul. Après, je fais quand même relire et ça m'arrive aussi d'échanger avec des personnes quand il y a des sujets que je comprends pas. Et après, sur le montage, etc., je fais de plus en plus travailler des personnes là-dessus, occasionnellement. Et puis après, j'ai des coups de main à droite à gauche, notamment il y a ma mère qui vous corrige le texte et qui vous permet d'avoir de beaux sous-titres. Et voilà sur le travail. Préparation des cours en live. Ouais, je pourrais faire ça. Je sais pas si ça vous intéresserait, les cours que je donne. Faudrait que je les. J'avais déjà réfléchi à les faire sur Twitter. Sur Twitch, pardon. Pff, Twitter. Mais je sais pas s'il y aurait du monde pour ça. Et je sais pas à quel point ils sont carrés en plus d'une année sur l'autre. J'apprends des nouveaux trucs, je les change à chaque fois. Et je m'adapte un peu aux élèves parce que j'ai toujours plus de trucs à dire que j'ai de temps. Donc j'essaie de répondre aussi un peu à leurs interrogations. Et ça aussi, ça change avec les années. Il y a un truc qui est assez intéressant, je pense, sur ce truc d'entropie et qui résume peut-être au moins la question qui nous a lancé sur ce sujet, qui est alors, je sais même pas sur quoi il le lit. Ouais, c'est assez intéressant parce que il y a un truc en fait sur la thermo, il y a eu des travaux d'un économiste qui s'appelle Nicolas Georgescu Rogan. Où il a essayé d'intégrer la thermo à l'économie. Est-ce que je peux vous montrer ça rapidement? Et ça, c'est une inspiration assez forte de la décroissance. Souvent, ça revient quand vous lisez des trucs sur la décroissance ou que c'est vulgarisé. Et en fait, l'article Wikipédia est pas vraiment tendre hein, sur son travail de thermo. Was blemished by mistakes. Ouch. Et en fait. En fait, l'idée, c'était. Je vais un peu vite. J'avoue que j'ai lu les chapitres de son livre sur les parties thermo et j'étais un peu déçu. Mais l'idée, c'était de dire. Les activités économiques sont des processus qui provoquent des dégradations, quoi, ce qui est incontestable. On pourrait parler des différentes sources de pollution. Et en fait, il s'appuie là-dessus sur le second principe en disant, voilà, les activités économiques vont avoir tendance à dégrader la matière. Et du coup, ça contraint. Alors, il y a des étapes, des raisonnements que je ne comprends pas. Et par exemple, si on lit le livre de Timothée Parry qui dit, bah voilà, vu qu'il y a ce second principe qui dégrade la matière, ça contraint la croissance économique. Alors, moi, j'arrive pas à comprendre cette logique. Parce que si la logique c'est qu'une activité économique prend de la matière de l'environnement, la dégrade et la rejette, bah au bout d'un moment, on n'a plus de matière non dégradée. Et donc, il n'y a plus d'activité économique. Vous voyez, si vous réfléchissez comme ça, ce n'est pas une contrainte sur la croissance, c'est une contrainte sur la possibilité d'existence de ce processus. Vous avez un processus qui prend de la matière, qui la dégrade, qui prend de la matière, qui la dégrade, il n'y a plus de matière, ce processus n'existe plus. Et donc, ça a été une attaque de ce style-là en faisant reposer cette idée de dégradation de la matière sur le second principe de la thermodynamique, sauf que le second principe de la thermodynamique ne concerne pas la matière. Et du coup, Georgescu Rogan, qui avait construit cet édifice mental, s'est retrouvé un peu en difficulté face à des critiques, et donc il a fait un truc qui est assez marrant, je trouve, c'est que il a formulé une nouvelle loi de la physique qu'il a appelée quatrième loi de la thermodynamique en disant en fait, voilà, c'est la seconde loi, mais appliquée à la matière. Le recyclage de la matière est impossible. Alors, il était pas hyper serein, je crois, enfin, d'après l'article qui est bien, en tout cas, il était embarrassé qu'il avait mal interprété les lois de la physique et donc, voilà, tiré des conséquences un peu douteuses. Donc, faut pas être trop méchant avec lui. Je pense que. Mais ça reste quand même une bonne astuce de rhétorique. C'est en fait, quand vous vous rendez compte que vous avez un raisonnement qui est mauvais, vous pouvez inventer un principe de la thermo qui vous donne raison. Et ça, c'est pratique quand même. Ça, c'est pratique. Alors, qu'est-ce qui m'a lancé là-dedans? Alors, et c'est intéressant aussi parce que en fait, on peut constater l'existence sur Terre de processus qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis longtemps. Par exemple, le vivant est là depuis longtemps. Et vous voyez, il n'y a pas grand monde en fait qui dirait, par exemple, la forêt amazonienne dégrade de la matière, second principe, parce que la forêt amazonienne fait des transformations, c'est incontestable. Et pas grand monde dirait, elle dégrade de la matière, second principe. Donc la forêt amazonienne va décroître, enfin, va disparaître. Vous voyez? Et en fait, qu'est-ce qui fait que, effectivement, il y a des transformations, il y a des dispersions de certaines choses et tout, et il y a production d'entropie. Alors, première raison pour laquelle la forêt amazonienne peut continuer à vivre, c'est que il y a le soleil qui brille. Donc il y a un flux d'exergie, quoi. Il y a vraiment ce flux d'exergie qui permet son organisation constante. Si vous éteignez le soleil, c'est sûr que la forêt amazonienne disparaît. Et puis après, ces processus qui va y avoir de dégradation de la matière, en fait, ils sont contrebalancés par des cycles, notamment ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques. Donc si vous prenez par exemple le fait que la forêt amazonienne, pour la photosynthèse, etc., va évaporer de l'eau. Bah, s'il n'y avait pas de cycle de l'eau, ça serait game over. Voyez. Et donc c'est vraiment une question de. Le problème, c'est pas qu'il y ait une organisation de la matière. Enfin, c'est pas que y ait cette structure dissipative, voyez, qu'il y ait cet arbre qui pousse. C'est pas ça le problème. C'est pas l'existence de ces structures-là. Il peut y avoir d'autres problèmes. Et dans le cas de notre économie, bah, les problèmes, ça va être des problèmes de pollution spécifique. C'est pas juste le fait qu'on utilise de l'exergie ou qu'on produise de l'entropie, parce qu'on voit bien que le vivant fait ça depuis longtemps, il arrive à se maintenir. Donc, si on fail, c'est parce que bah on tire des trucs de l'environnement et que au bout d'un moment il y en a plus. Je sais pas, certains minerais ou alors qu'on émet certaines pollutions. Je sais pas, par exemple des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, c'est un truc qui est quand même beaucoup moins général. Je me suis encore envoyé là un truc. Alors, Bipandum, c'est faux, son quatrième principe, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la Terre est quasi un système fermé du point de vue de la matière? Alors, effectivement, on pourrait considérer que c'est fermé du point de vue de la matière, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... comment je peux expliquer ça? Tout ça est très qualitatif, hein. Il y a des gens qui trouveront peut-être les erreurs dans ces raisonnements. Mais quelque part, peut-être que c'est pour ça que j'en parle ici aussi, mais par exemple, je vais prendre un exemple très concret. C'est la végétation a besoin de carbone. Elle va le concentrer en grandissant et elle va faire des molécules organiques. Moi, je vais m'en nourrir et qu'est-ce que je fais là? J'expire. Et en fait, quand j'expire, le carbone qui a été absorbé par le blé, qui s'est retrouvé dans la farine de la pizza que j'ai mangée, hop. Eh bien, je vais me servir de ces molécules organiques pour faire fonctionner mon métabolisme et faire du travail de manière assez inefficace aussi, on va le dire. Mais bref, voilà, je fonctionne, je suis content. Et j'expire le CO2. Quand j'expire le CO2, vraiment, je dilue ce truc de ouf, hein. C'est comme si je prenais je sais pas, un pied de chaise et que je le broyais en truc tout fin que je dispersais dans l'océan, quoi. Là, c'est très concentré et là, c'est à 0,04%, quoi. Et en fait, voilà, ça serait ça. Là, quelque part, je dégrade la matière. Vous voyez, je disperse un truc qui est concentré dans un volume qui est beaucoup plus grand. Et en fait, qu'est-ce qui permet de s'en sortir? Ben, si vous avez de l'exergie, vous pouvez concentrer la matière. Et la preuve, c'est un arbre, quoi. Et en fait, c'est tout le truc, c'est si vous avez de l'exergie, vous pouvez faire un travail. Vous pouvez, voilà, je prends un minerai de fer où il y a plein de fer qui est étalé, j'en fais je sais pas, j'ai un truc en acier autour de moi, j'en fais une aiguille. Ouais, j'ai une aiguille là. J'en fais une aiguille et là je l'ai concentrée. Et comment j'ai pu concentrer? Parce que ça, c'est pas le sens de l'histoire, quoi. Si je laisse cette aiguille dans la nature, elle va pas rester longtemps sous forme d'aiguille, quoi. Pourquoi j'ai réussi à la concentrer? Parce que j'ai utilisé de l'exergie. Et donc, dans un système où vous avez de l'exergie, il n'y a rien qui vous empêche thermodynamiquement de faire cycler de la matière, quoi. Et c'est ce qu'on observe sur Terre. Il y a des cycles de l'azote, du phosphore, de l'eau, du fer, de plein de trucs qui permettent aux vivants de se maintenir. Et en fait, s'il n'y avait pas ces cycles-là, qui sont alimentés par des mouvements de matière qui sont alimentés par des différences de température qui sont alimentées par le flux d'exergie qui vient du soleil. S'il n'y avait pas ces mouvements-là, il n'y aurait pas la vie qui peut se maintenir. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de, avec l'exergie, vous pouvez cycler la matière. Ou recycler la matière. Je sais pas si c'est clair. Ouais, pardon. Alors, pour chameau nonchalant, l'exergie, parfois c'est appelé énergie libre et ça se rapproche de notions qu'on manipule en thermodynamique, mais en gros, c'est la partie de l'énergie qu'on peut transformer en travail parce que la dure loi de la thermo fait que toute l'énergie ne peut pas être transformée en travail. Et puis, bah, quand vous avez dans le monde réel des pertes, etc., ça finit sous forme de chaleur dispersée dans l'environnement. Et ça, c'est vraiment la dure loi de la thermo, quoi. Alors, en fait, vraiment, le second principe, c'est j'utilise de l'électricité là pour faire ce stream. Bah, en fait, l'électricité que j'utilise là, vous ne pouvez pas l'utiliser chez vous pour jouer à PlayStation et je ne peux pas l'utiliser demain hein, qu'est-ce que je fais moi ? Pour faire des recherches sur la thermo. Et c'est vraiment ça. Cette électricité qui est de l'énergie de bonne qualité, qui est de l'exergie, elle finit comment ? Elle finit sous forme de chaleur dans cette pièce. Voilà, j'ai besoin d'un peu moins de chauffage, mais je ne peux pas en faire plus. Je ne peux pas en faire plus. Et alors, ce que je suis en train de dire un peu avec cette histoire de vivant, c'est pas du tout que nous, on est dans ce truc cyclique-là. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est juste, bah, il y a des systèmes qui sont dans ce type de cycle, y compris des systèmes qui transforment la matière, et ça veut bien dire que thermodynamiquement, c'est pas impossible. Après, c'est incontestable aujourd'hui qu'on a un niveau de destruction dans l'environnement qui remet en question la pérennité de notre fonctionnement actuel. Mais je doute que la manière de comprendre ça, ce soit à travers la thermodynamique ou l'entropie. Je pense qu'il faut se pencher sur, dans ce qu'on fait, qu'est-ce qui n'est pas durable. Et c'est là qu'on retourne sur toutes ces questions de surexploitation et de pollution et de dommages environnementaux, crise climatique, crise de la biodiversité, les formes de pollution dont on pourrait longuement discuter. Et en fait, cette approche, elle reste assez marquée. Et de George S. Corrigan et cette idée de l'entropie, c'est ce qui nous mène dedans. Et ça a donné c'est marrant, sur l'article Wikipédia en anglais du pessimisme, vous avez une partie sur le pessimisme anthropique. Et le pessimisme anthropique... Ah, attendez. C'est pas très clair, c'est pas très marrant non plus. C'est vraiment c'est cette idée de... Il y a la conservation de l'énergie et de la matière et il y a des dégradations, notamment par les activités économiques. Et c'est ce processus-là qui rendrait impossible la continuité de l'économie. Et c'est dur pour moi de le défendre. Et c'est l'idée de... En fait, on crée de l'entropie et on fait qu'accélérer une dégradation. C'est pas très clair expliqué comme ça. Après, l'image là, by Pandum, honnêtement, elle est pas si mauvaise. Elle est pas si mauvaise parce que il y a quand même cette notion de là vous avez de l'énergie de bonne qualité et là vous avez de l'énergie de mauvaise qualité. Et en fait, Ce qui n'est pas toujours bien compris, c'est que l'implication directe de ça, c'est que sur Terre, il y a de l'entropie qui est créée de toute manière. C'est l'exergie est détruite de toute manière. En fait, quand vous avez, je ne sais pas, un mètre carré de route, vous pouvez le voir comme une destruction de potentiel, quoi. Vous avez de l'exergie là qui vient s'écraser au sol et qui disparaît comme ça sans que personne en profite. Pas un brin d'herbe, pas un joueur de PlayStation, rien du tout. Et si je voulais troller un peu, tu vois, on pourrait imaginer une école de je sais pas comment dire, d'entropie positivisme. Et l'idée, ça serait, c'est dommage de laisser gâcher ce potentiel. Faisons-en quelque chose. Laissons un truc pousser à cette place. Utilisons cette exergie pour quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette intuition de, comme s'il y avait que des procédés actifs qui produisaient de l'entropie. Comme s'il n'y a que quand moi je fais tourner un ordinateur qu'il y a de l'entropie qui se produit, alors que l'entropie est produite de toute manière. Alors il y a des questions un peu compliquées si on passe au niveau méta en se disant, ok, mais si on change la nature de cette surface, ça change l'interaction avec le rayonnement, donc on peut changer l'entropie renvoyée vers l'espace, et donc là il y a un changement un peu macro, mais si on ne touche pas à la nature de cette surface, vous voyez, il y a un panneau photovoltaïque qui ne fonctionne pas, et je le remplace par un panneau photovoltaïque qui fonctionne, en fait, dans les deux cas, l'entropie produite, à mon avis, est la même. C'est juste que dans un cas, je m'en sers entre-temps, je me sers de cette exergie, je décale dans le temps la production de l'entropie, je me sers de cette exergie pour faire quelque chose, alors que dans l'autre cas, elle était juste perdue par thermalisation. Et je pense que c'est un peu ça, ce point de vue d'entropie pessimiste, c'est cette idée de... On fait que dégrader et il n'y a pas de possibilité d'en sortir et on va vers une genre de fin. Et en fait, cette logique se comprend très bien quand vous réfléchissez en termes de système isolé. Si on vous enferme dans une boîte à chaussures, à la fin, tout va être immobile. Je suis désolé pour vous, je viens de faire un truc horrible. Si on enferme une petite pâquerette qui n'a rien demandé à personne dans une boîte à chaussures, eh bien, il n'y a plus de soleil et cette pâquerette va mourir. Et dans une boîte à chaussures, on va tendre vers ce qu'on appelle un équilibre thermodynamique où il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de mouvement, tout est à la même température, équilibre thermique, il n'y a plus de gradient de potentiel, il n'y a plus de différence dans cette boîte. Alors, je ne dis pas que la matière s'est bien mélangée, parce qu'elle peut rester séparée à l'équilibre, mais vraiment c'est chiant quoi, il ne se passe plus rien du tout. Mais la Terre, c'est pas ça. La Terre, on est dans un flux d'exergie, on est dans un système où il y a toujours de l'entropie qui se crée, où il y a toujours de l'exergie qui permet des transformations, et c'est pour ça que la Terre n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Bref, est-ce que je vais prendre pessimisme anthropique ou anthropique? Joli. Un auteur que j'apprécie beaucoup, Georges Bataille, développe une thèse originale dans la part maudite qui semble plus fidèle à la réalité de la thermo, j'ai l'impression. Pour lui, c'est le surplus d'énergie disponible qui est la part maudite de l'humanité, parce qu'elle dispose de plus d'énergie que ce dont elle a absolument besoin pour survivre et se reproduire. Donc elle a trouvé une façon de la gaspiller, soit en concentrant son usage dans un effort d'accumulation, soit en sacrifiant de l'énergie via la destruction. Ouais, c'est une bonne question. Bah, mais pourquoi plus que ce qu'il y a besoin pour... Ça dépend de ce que tu vises comme société. Je pense que c'est entendable pour certains trucs. On parlait tout à l'heure du fait qu'on tape assez fort dans ce qui est produit par la photosynthèse. Et ça, on peut le voir. Enfin, surtout, c'est surtout notre système agricole. Et en fait, on pourrait réfléchir à comment on peut faire pour moins tirer là-dedans. On pourrait imaginer, par exemple, qu'on gâche moins de nourriture. On pourrait imaginer qu'on a un système de production plus efficace, donc qu'on produirait plus à l'hectare pour laisser plus de place à la nature. On a déjà parlé de ça. Et on pourrait aussi imaginer, ça serait bien, qu'on consomme moins de produits animaux. Et dans ce cas-là, ben, pour une même alimentation, vous avez besoin de moins de surface. Et finalement, du point de vue de la thermo, c'est un usage plus efficace de l'exergie. Vous avez besoin de finalement vous, j'ai envie de dire vous arroger, mais je sais pas si c'est un vrai verbe. Vous avez besoin de prendre moins de l'exergie disponible pour l'environnement, pour votre alimentation, dans ce cas-là. Et après, je pense qu'on... Ouais, je ne sais pas si le guerre, sacrifice, festival, c'est là pour sacrifier l'énergie. Hein. Je ne sais pas si j'aurai la vision de cet auteur, en tout cas. Avec les panneaux photovoltaïques, on arrive à concentrer temporairement l'énergie avant de la dégrader en l'utilisant. Bah, c'est un peu l'idée. Après, il y a toutes les questions de changement de surface, etc. Mais dans l'idée un peu approximative, ouais, c'est si le rayonnement s'écrase juste au sol, en fait, l'entropie va être créée à ce moment-là. Si c'est capté par le panneau photovoltaïque, bah, de l'entropie va être créée aussi, hein, parce que le rendement n'est pas de 100%, mais il y a une partie qui va être convertie sous forme d'électricité et qui va faire fonctionner un ordinateur. Et bah, là, quand ça va être utilisé dans l'ordinateur, l'entropie va être produite à ce moment-là. Et du coup, après, on pourrait parler de la production de ces différents trucs et tout, hein, c'est hyper compliqué comme toujours, et les discussions de thermo. Souvent à ce niveau sont assez abstraites, mais l'idée c'est vraiment ça. Au final, le photovoltaïque il va juste décaler un peu dans le temps et ça va pas changer fondamentalement ce qu'il arrive à ce rayonnement-là. Et vous voyez, ce qui va avoir au départ c'est le rayonnement solaire, et ce qu'il va y avoir à la fin c'est le rayonnement émis par la surface terrestre. Et ce rayonnement émis par la surface terrestre, qu'il ait été chauffé à 100% par le soleil ou à 80% par le soleil et à 20% par le soleil qui a été capté par le photovoltaïque et qui a fini dans l'ordinateur, ça change rien. Parce que conservation de l'énergie. Et du coup, ouais, c'est un peu cette idée-là. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Et après, ouais, même ce truc de but de la vie, c'est l'entropie et tout, je sais pas trop. Je sais pas trop. On pourrait avoir le problème, hein, de ce niveau de. D'abstraction, c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi à la thermo, je pense. Et par exemple, le cas des ressources fossiles, c'est très intéressant. Le cas des ressources fossiles, c'est très intéressant. On pourrait dire, l'entropie, la vie est là pour faire de l'entropie, etc. En fait, s'il n'y avait pas eu le vivant, ce stock-là, il n'existerait pas. Ce stock d'exergie, il n'existerait pas. L'entropie, plutôt que de ne pas avoir été créée pour faire ce stock-là, eh ben, aurait été créée à ce moment-là, si la Terre, il n'y avait pas de plantes dessus. Le rayonnement solaire qui arrive il y a 300 millions d'années, paf, il thermalise sur la Terre et il repart dans l'espace en ayant été bien dégradé au passage. Mais il y a ce stock, le rayonnement solaire d'il y a 300 millions d'années, pour l'immense majorité, paf, il thermalise et il finit dans l'espace. Et il y a un peu moins de production d'entropie parce qu'il y a des petites plantes qui poussent et qui forment ce stock-là. Et donc ça, c'est quelque part, rien que l'existence de ressources fossiles, c'est une démonstration. Que ce truc de vivant qui est là que pour produire l'entropie, c'est un peu absurde. C'est si le vivant est là que pour produire l'entropie, pourquoi il y a ce stock-là? Pourquoi ça n'a pas été mangé pour finir? C'est un petit contre-exemple. Ouais, mais Bipendum, ouais, mais François Rodier, par exemple, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à le lire, et de plus en plus au fur et à mesure que je comprends la thermodynamique. Et en plus, sur des auteurs de ce type, il y a un problème qui est que l'entropie a vraiment sa compréhension dans le monde de l'énergie, la thermodynamique, etc. Et ensuite, il y a des applications de formules similaires, et souvent on appelle ça aussi entropie, dans d'autres domaines scientifiques. Par exemple, dans la théorie de l'information, il y a cette entropie de Shannon. Et le problème, c'est que c'est quand vous commencez à faire des réflexions en considérant qu'on manipule exactement les mêmes notions dans différentes branches et vous construisez des interactions là-dessus. Parce que ça, ça peut mener à tout et n'importe quoi. Mais là, c'est un sujet compliqué. Et sur la vidéo, en fait, on se concentrera sur l'aspect vraiment physique, thermodynamique, je pense. Parce que j'ai du mal à comprendre le sens de croiser des notions qui sont très éloignées. J'ai dit une bêtise? Non, je pense que c'est bien Shannon, non? Théorie de l'information. Entropie de Shannon. Ouais, c'est en théorie de l'information. Mais c'est la même formule. C'est la même formule que celle de Boltzmann. Ouais, je parlais dans la théorie de l'information. Chameau non l'achalant, faut laisser la question de l'entropie aux physiciens, ça perd de son sens lorsqu'on veut faire la philo avec. Bah, c'est plus la manipulation de ces concepts, parce qu'en fait la formule de l'entropie et certains concepts qui s'en rapprochent sont vraiment utilisés dans d'autres domaines de la science avec des et ça amène à des résultats qui ont du sens. Alors je connais pas très bien la théorie de l'information, mais il y a vraiment comment dire, des connaissances utiles qui découlent de l'étude de l'entropie dans la théorie de l'information. C'est juste que si vous commencez à dire oui, mais les sociétés humaines ont de plus en plus d'informations, donc ça a des implications sur la manière dont on utilise. Là, ça devient plus difficile, ce genre d'abstraction et de lien. Et puis après, franchement, on s'est fait relire par des physiciens qui connaissent la thermo et c'est assez marrant parce que les physiciens sont pas à l'aise pour définir des concepts d'entropie ou d'énergie. Ils vont vous expliquer ce qu'implique une évolution de l'énergie ou de l'entropie, mais pas beaucoup plus. En fait, il y a un truc, je pense, qui est très dur à comprendre, qui est que l'énergie et l'entropie, c'est pas des trucs que vous observez, que c'est des trucs que vous quantifiez. Voilà. Vous connaissez certaines variables de votre système, vous pouvez calculer, même pas l'entropie, vous pouvez calculer une évolution de l'entropie qui est liée à une transformation. L'énergie, bah, c'est une quantification, voilà, c'est une abstraction mathématique, c'est une quantification qui reste constante quand il y a des transformations dans un système. Et c'est pas quelque chose d'aussi tangible qu'une pression, ou c'est vous le calculez à partir de pression, de vitesse, de plein de choses comme ça que vous pouvez mesurer. Mais c'est vraiment une abstraction, c'est une quantification, et l'énergie, voilà, c'est une quantité qui reste constante quand il y a des transformations. Mais c'est un peu parce qu'on la définit comme ça. Mais c'est très utile. Ça permet de faire des prédictions sur des systèmes, de faire des calculs qui sont hyper importants. Et si on n'avait pas ce concept-là, la physique serait pas là aujourd'hui. Et l'entropie, c'est un peu pareil. C'est une construction. Quand l'entropie augmente en physique, c'est parce qu'il y a des transformations irréversibles. Voilà. Mais ça, c'est pas une conséquence du second principe. C'est comme ça que l'entropie a été construite. C'est l'entropie en physique, on l'a construite pour que cette quantité augmente quand il y a des transformations irréversibles. C'est un peu tautologique, cette histoire. C'est un peu. Et après, ça n'empêche que c'est hyper utile. Et pouvoir la calculer dans certains systèmes, c'est hyper important. Et ça permet de montrer qu'il y a des transformations qui sont impossibles. Ça permet de montrer le rendement maximum d'une machine thermique et de s'en approcher. Ça permet de comprendre vraiment beaucoup de choses. Je dis pas du tout que ça fait que ce concept est vide. Mais c'est quand même un concept intellectuel, une abstraction. C'est une quantité qu'on calcule. On peut faire des fonctions avec, on peut les calculer. Mais il faut vraiment le voir comme ça. Et d'ailleurs, ces principes, hein, second principe de la thermodynamique, c'est pas quelque chose qui est démontré. C'est quelque chose. On sait que toutes les observations qu'on a pu faire, bah, il n'y en a aucune qui contredit ce principe. Donc c'est un truc qu'on considère comme extrêmement vrai, extrêmement solide, parce que l'ensemble des observations qu'on a valide ce principe-là. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est hardcore aujourd'hui. Je sais pas si je vais continuer longtemps. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et il y a vraiment ce truc de. Cet auteur, il est pas très long. Je vais peut-être lire cet article, mais je me souviens plus. Je me souviens juste que ça donnait un peu la problématique sur laquelle. Qui m'intéressait, moi. Donc voilà, en gros, les pessimistes anthropiques croient que l'usage humain de l'énergie va automatiquement dégrader les écosystèmes parce que l'énergie dans nos écosystèmes est limitée. Alors, il y a un argument au niveau de la matière aussi, mais c'est vrai que vu qu'on ne peut pas le défendre avec partir des principes de la thermo, c'est dur de le défendre. Et ça, c'est évidemment faux parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie disponible, quoi. Donc l'énergie, l'exergie, hein, n'est pas un problème. Et Georgescu s'est rendu compte de son erreur et a inventé un principe de la thermo, ce qui est quand même pas mal. Par contre, il a raison sur un point qui est c'est difficile d'utiliser des matériaux sans les dégrader et sans produire de pollution. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on dégrade, on pollue, c'est incontestable, et on est en train de saccager notre environnement jusqu'à mettre en question, hein, notre pérennité, au moins l'organisation actuelle de nos sociétés. Mais voilà, en fait, il n'y a rien dans la thermo qui implique que utiliser l'énergie ou même utiliser plus d'énergie amène plus de dégradation et de pollution. Et ça aussi, on peut le comprendre assez bien parce que toutes les énergies ne se valent pas. Enfin, si vous avez vu la vidéo sur le charbon, vous voyez que même sur les autres impacts que le climat, et sur le climat, c'est évident, un kilowattheure qui nous vient d'une centrale au charbon, c'est pas la même qu'un kilowattheure qui nous vient d'un panneau photovoltaïque. Et je dirais même qu'un kilowattheure qui vient d'une centrale au charbon aujourd'hui, c'est moins d'impact qu'un kilowattheure qui vient d'une centrale au charbon il y a 60 ans. Et donc, rien que ça montre que quelque part, c'est l'utilisation d'énergie, c'est pas la bonne métrique. Et c'est pour ça que les rapports du GIEC, ils disent pas arrêtez-vous sur l'entropie. Ils disent les gars, faut arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que les rapports de l'IPBES, ils disent pas le problème, c'est l'entropie. Ils disent le problème, c'est que vous laissez pas de place à la nature, vous lui balancez plein de saloperies dans la tronche, vous balancez trop d'azote et de phosphore, vous surpêchez, vous surchassez. Les gars, arrêtez quoi. Et donc voilà, c'est un peu près le point. Ah d'ailleurs, je me souviens même plus, mais il utilise aussi ce truc de la vie sur Terre, qui me paraît un argument valide et assez intuitif. Je pense que c'est intéressant de partir de là. Et du coup, voilà, il y a ce point qui montre assez la fracture finalement entre des personnes qui pensent que le problème c'est quasiment l'utilisation d'énergie, et par exemple Aurélien Barraud dont on avait parlé une fois avec Jean-Luc, on avait commenté sa vidéo, qui doit être la vidéo la plus détestée de cette chaîne secondaire, il est pratiquement dans cette approche, et puis il y en a d'autres qui vont dire mais non, ce qu'il nous faut c'est justement avoir une énergie plus propre, le problème c'est pas l'énergie, c'est les coproduits de nos procédés. C'est tout ce qu'on rejette vers l'environnement et ce qu'on va y tirer, et c'est ça qu'il faut minimiser, quoi. Et mine de rien, je pense pas que ce soit anecdotique, parce que on a quand même des gros problèmes, et si on n'arrive même pas à les poser correctement, on n'a aucune chance de les résoudre, quoi. Donc je pense qu'il y a un point important à vraiment identifier, ok, c'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème aujourd'hui avec la dégradation de l'environnement, quoi. Et on retrouve c'est assez intéressant, hein, ce pessimisme anthropique, il est lié à un technopessimisme qui lutte contre la technologie quasiment en soi, quoi. C'est un peu méchant, mais je partage un petit peu. Mais c'est un raisonnement qui serait du même niveau que de dire, la population humaine nous a menés jusque-là et donc faut décroître son nombre. Et il y a certaines personnes, hein, qui défendent ce truc qui est encore beaucoup moins entendable que sur la technologie. Donc voilà, lui, c'est clairement plutôt du côté techno-optimiste quelque part, si on doit mettre sur un axe. Mais il a quand même un point sur ce truc techno-pessimiste. Pardon, le pessimisme anthropique, c'est quand même difficile à défendre, quoi. Merci George Harrison pour ton abonnement Prime. C'est bien de rappeler que la sobriété est importante, mais c'est pas le seul levier en somme. Ouais, alors. Ouais, c'est important, et comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, moi au moins personnellement, j'en suis convaincu, hein, parce que je l'applique à moi-même, donc évidemment c'est important, la sobriété, et il faut continuer à essayer d'en faire. Ce qui me questionne un peu plus, c'est quels sont les leviers à l'échelle de la société dans son ensemble, en partie parce que je pense que c'est difficile de former tout le monde sur tous les sujets. J'ai peut-être les bonnes pratiques sur les questions d'écologie, dans une certaine mesure, mais je connais pas tous les autres sujets et j'aurais pas toutes les bonnes pratiques sur tous les sujets. Donc bref, la sobriété c'est important, mais c'est même pas juste ça la question. C'est aussi si tu commences à dire l'énergie, c'est un problème parce qu'on en a pas assez, ou l'entropie, c'est un problème parce qu'il faut pas en créer. En fait, tu vas pas forcément appuyer là où c'est le plus utile, quoi. Tu vas essayer de décroître des consommations d'énergie qui peut-être ont très peu d'effet et pas forcément celles qui en effet. Alors que si tu dis non mais les gars, le problème pour le climat par exemple, c'est le CO2, bah au lieu de taper sur l'énergie au hasard, tu vas taper d'abord sur le charbon et le pétrole et le gaz. Et il y a vraiment cette idée de faut pas juste le voir comme encore un affrontement entre sobriété et technologie, c'est aussi une question de même si tu penses en sobriété ou en décroissance, voilà, qu'est-ce qu'il faut réduire en fait? Qu'est-ce qu'il faut réduire? Et si tu te plantes dans ton analyse de pourquoi la situation actuelle n'est pas tenable, bah tu vas pas appuyer sur les bons leviers, tu vois. Si je dis non mais faut décroître, faut faire de la sobriété, utiliser moins d'énergie et que et qu'on va démonter les éoliennes mais qu'on garde les centrales au charbon, c'est pas malin quoi. Donc même dans ce cadre-là. Je pense que c'est important de plutôt avoir une analyse en termes de OK, où sont les impacts et faut aller là-dessus. Et en fait, les discours de les réflexions sur la thermo permettent pas de faire ça. Vous me dites, j'ai consommé tant d'exergie ou j'ai produit tant d'entropie, ça me dit rien des impacts ou de est-ce que c'est mal ou c'est bien dans le sens essayons d'aller vers la durabilité. Donc voilà. Rien à voir, mais vous avez vu EDF qui va produire du tritium pour les CEA, pour la dissuasion nucléaire. KEMS 89. Non, j'ai pas vu. Je suis tellement dans mon truc, je vois plus rien là. Jusqu'à ce que je m'en sorte. Des fois, pendant des semaines, je suis dans cet état de PLS où les rounds après rounds de relecture me mettent des coups de pied au sol. Simple Mars, à ce sujet, je viens de finir Not the End of the World. Après que vous en ayez parlé en live, le livre est intéressant. Merci pour la recommandation. Ben, de rien. De rien, de rien. N'hésitez pas à m'envoyer un peu ce que vous avez pensé, y compris sur les défauts. Ça m'intéresse. By Pandum, c'est quoi le lien de cet article? Pardon. C'est quelqu'un qui s'appelle Oke Hoekstra. Qui est plutôt positif sur qui est ouais optimiste sur les renouvelables aux voitures électriques et notamment sur les capacités de déploiement et les potentiels. Donc on regarde aussi un peu un extrême. Mais c'est intéressant justement parce que vous voyez si ça aussi c'est intéressant, c'est mettons que vous soyez décroissant. Alors autant la sobriété, je comprends bien, autant la décroissance, ça me paraît un peu plus abstrait, malgré ce que je lis dessus. Mais mettons que vous soyez décroissant. Moi, si j'étais décroissant, je peux vous dire que je me revendiquerais pas de Nicolas Georgescu Régone, quoi. C'est pas parce que c'est vraiment pas ouf. Et je me revendiquerais même pas d'arguments thermodynamiques parce que voilà, ils se font éclater très rapidement. Je veux dire, vous sortez les arguments thermodynamiques, on vous dit, ok, ben. Pourquoi l'activité économique est vouée à disparaître alors qu'une forêt peut se maintenir? Ou alors, pourquoi on est en PLS au niveau de l'exergie alors que on vit au goutte à goutte et qu'il y a un fleuve à côté? Et là, vous êtes en difficulté. Là, vous êtes vraiment en difficulté. Alors qu'il peut y avoir des meilleurs arguments de certaines ressources qui ne sont pas renouvelables ou dont l'exploitation n'est pas soutenable ou de certaines pollutions. Évidemment. Ça laisse la porte ouverte à OK, mais si on trouve des substitutions, OK, mais si on règle ces pollutions, parce que c'est vrai que là, on règle le problème. Et souvent, les arguments de thermo sont utilisés parce qu'il y a ce truc de toute façon, personne n'y comprend rien, donc ça vous donne l'impression d'avoir raison. Ah, est-ce que je peux vous trouver ça? Est-ce que c'est drôle? Et maintenant, moi, de plus en plus. De plus en plus, quand des personnes sortent des arguments de thermo, je me dis, ok, si le meilleur argument qu'a cette personne pour défendre sa vision, c'est un truc qui est faux et elle me prend pour un pigeon, c'est que vraiment, elle n'a pas des bons arguments, quoi. C'est le problème. Si vous commencez à me dire, il n'y a pas de croissance verte parce que c'est impossible thermodynamiquement, je me dis, ok, donc en fait, t'as aucun argument qui tient la route contre la croissance verte, quoi. C'est un peu ça le truc. Et sur ce truc de l'incompréhension de sur ce truc de la thermo, c'est assez marrant. Alors, comme toujours, pour les vieilles citations, on ne sait pas si c'est exact, mais c'est une situation qu'on trouve à beaucoup d'endroits. On vous la mettra peut-être dans le script. D'après Shannon, qui réfléchissait, donc en fait, Shannon, quand il a fait cette théorie de l'information, il s'est rendu compte qu'il y avait cette quantité qu'il aimait bien, qui était enfin, en log de truc muche là. Donc, en fait, la même formulation qu'avait fait von Neumann en thermodynamique statistique pour la même formule que von Neumann en thermodynamique statistique pour l'entropie. Et du coup, apparemment, ils ont discuté de comment appeler ce concept. Et von Neumann lui a dit. Alors, au début, Shannon voulait l'appeler incertitude, mais c'était un mot qui était très utilisé. Et von Neumann lui a dit, j'ai une meilleure idée, tu devrais l'appeler d'entropie. D'abord, la fonction que tu utilises, en fait, on l'utilise déjà en physique statistique sous le nom d'entropie. Et ensuite, et de façon plus importante, personne ne sait vraiment ce que l'entropie est. Donc, dans un débat, tu auras toujours l'avantage. Ah mais je dis von Neumann, n'importe quoi. Pourquoi von Neumann? Ah non, mais pardon, c'est Boltzmann qui l'a fait en physique statistique. Pardon. C'est Boltzmann qui a fait la formule en physique statistique et von Neumann lui dit, on l'utilise déjà en mécanique statistique, en physique statistique, en thermodynamique statistique. Ça peut être un peu le même nom. Donc, pardon, j'ai mal raconté l'anecdote. Merci pour Waterset de me redresser. Mais il y a ce truc, et ça pour le coup c'est vrai, c'est l'entropie, c'est vraiment un truc plus. Et c'est marrant comme concept parce que ça fait partie de ces concepts. En fait, plus tu les étudies et moins tu es capable de les définir. Parce que tu en vois de plus en plus de. Je peux vous dire tout ce que l'entropie n'est pas, si vous voulez. Est-ce que j'ai mon Twitter d'ouvert là-dessus? Je peux vous dire ce que l'entropie n'est pas. Ah, on aurait pu parler de cette chronique de merde sur les voitures électriques que nous a fait François Langlais, là. Bravo, bravo, champion du monde. Je peux vous dire ce que l'entropie n'est pas. Il y a un truc qui est assez marrant, qui est. C'est la faute von Neumann. Ouais, von Neumann, c'est en quantique. Ok, j'ai pas été poussé cette porte-là, quasiment 93. Et ce que l'entropie n'est pas, et là aussi, c'est assez marrant parce que, par exemple, on présente souvent comme augmentation de désordre, et en fait, ce truc de l'entropie comme augmentation de désordre, ça vient même pas de la physique, ça vient vraiment de vulgarisation qui a été faite genre au début du XXe siècle et du XXIe siècle peut-être plutôt. XXe siècle. Non, XXe siècle. Et c'est resté. Et c'est souvent enseigné comme ça. Et là, c'est assez marrant parce que je sais pas si je les ai encore ouverts quelque part, mais il y a des pelletées d'articles qui expliquent pourquoi l'entropie n'est pas une mesure du désordre. Et peut-être je peux vous montrer un. Et moi quand je l'ai mis. Moi quand j'ai mis ce sondage sur Twitter, j'hésitais entre différentes manières de présenter le concept un peu rapidement. Et notamment. Alors, le désordre, le problème, c'est que c'est tellement subjectif comme notion que ça colle assez mal. Vous voyez, par exemple, si on regarde la dilution d'une goutte d'encre, vous allez avoir le premier état où la goutte est entière. Voilà. Est-ce que ça, c'est ordonné ou désordonné? Et après, vous allez avoir, là, on sera tous d'accord, je pense, pour dire que c'est désordonné, quoi, c'est chaotique, etc. Et après, une fois que c'est entièrement mélangé, est-ce que c'est ordonné ou désordonné? Et moi, j'aurais tendance à dire, quand je vois une goutte bien rangée comme ça, je dirais que c'est ordonné, et à la fin aussi, c'est ordonné. Alors que du point de vue de l'entropie, elle augmente naturellement, parce que c'est réversible, etc., elle augmente au fur et à mesure de cette transformation. Donc en fait, si l'entropie, c'est une traduction du désordre, bah, votre verre qui est entièrement bleu à la fin, vous devriez le percevoir comme du désordre, et c'est rarement le cas. Et en fait, on peut trouver plein d'exemples comme ça où notre intuition d'ordre, désordre, ça fit pas du tout avec, avec l'entropie. Alors, après, y a un truc quand même, c'est, ça peut se comprendre au niveau statistique, et dans ce cas-là, moi, ce que j'aimais bien comme idée, c'était plutôt l'idée d'homogénéisation, quoi. Parce que tu as vraiment cette idée de, tu vas d'un truc qui est hétérogène, qui l'est de moins en moins, et tu finis sur quelque chose qui est homogène. Et je pensais que c'était un peu plus juste, et on en a quelques-uns. Et je pourrais dire pourquoi c'est pas complètement faux, mais... Et là, je me suis fait sniper par une réponse. Je sais pas si je la trouverai. Comme quoi, hein, même mes sondages Twitter nuls, ils me servent. Et il y a un gars qui a mis... Un gars, je sais pas. Il y a une personne qui a mis le meilleur contre-exemple sur le fait que ce soit homogène, c'est une homogénéisation, c'est la vinaigrette, quoi. Vous laissez la vinaigrette se reposer, bah, vous allez finir avec quelque chose d'hétérogène. Et c'est très juste, c'est très juste. Donc homogène, c'est un peu nul aussi. Et je l'ai vu après dans un article qui expliquait pourquoi c'est pas du désordre et pourquoi c'est pas de l'homogénéisation. Et à la limite, ça pourrait être, je pense que ça pourrait être une homogénéisation, mais d'un point de vue énergétique. C'est vraiment. Dans notre monde, il y a des différences de potentiel. Voilà. Il y a une différence de hauteur dans un champ gravitationnel, et donc si je lâche ça, hop, le stylo tombe. Donc il y a des différences de potentiel électrique, de différences de pression, etc. Et en fait, le sens du temps, les évolutions vont réduire ces potentiels-là. Et c'est ça, et ça se traduira par une augmentation de l'entropie. Donc on pourrait le voir comme une forme d'homogénéisation de ces potentiels ou d'homogénéisation de l'énergie. Et si vous regardez la vidéo de Veritasium sur l'entropie, avec laquelle je suis pas entièrement d'accord, vous verrez que lui, il dit l'entropie, enfin l'augmentation de l'entropie, c'est spread of energy. Donc vraiment, c'est un étalement de l'énergie, une homogénéisation de l'énergie. Mais en tout cas, c'est pas vrai de le penser pour la matière, quoi. C'est pas vrai de le penser pour la matière. Une dispersion énergétique, ouais. Joe Cosmic, ouais, c'est une bonne idée. Et l'irréversibilité, ouais. Alors, il y en a qui ont répondu. On est plutôt en dehors des sujets énergétiques, mais tu es en mesure de nous parler du rapport entre entropie et flèche du temps. Alors, c'est intéressant. Alors, peut-être que je me plante, et peut-être que je recevrai des mails d'insultes de physiciens demain, mais en fait, effectivement, une augmentation de l'entropie. Enfin, comment dire ? Le second principe dit que voilà, dans l'univers ou dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter et elle peut jamais diminuer. Et en fait, si l'entropie, s'il y a une transformation où la variation d'entropie est nulle, ça veut dire que cette transformation est réversible, ce qui arrive très rarement dans la réalité, hein, mais ça arrive dans les bouquins de thermo par contre. Et donc ça veut dire là vous avez pas de flèche du temps. Vous voyez, si vous avez une transformation réversible, ça veut dire que vous pouvez la faire dans l'autre sens. Ça veut dire ça réversible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous passe un film de cette transformation et le film de la transformation dans l'autre sens, vous savez pas lequel est le vrai film. Vous voyez? Vous pouvez pas faire la différence entre le film à l'envers et le film à l'endroit. On peut imaginer des systèmes réversibles. On peut imaginer s'il y avait qu'est-ce qu'on peut imaginer? Si on prend un ascenseur comme ça, et quand il descend, il recharge une batterie avec une dynamo, et qu'il y a des pertes nulle part, eh bien, il va descendre, ça va recharger la batterie, il faudra autant d'énergie pour le monter. Bon, il n'y a personne qui monte et qui descend, ça va compliquer mon exemple. Et donc là, on peut avoir des transformations réversibles. Dans la réalité, il y a des pertes de partout, dans la dynamo, la batterie et tout, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais dans un livre de thermo, ça fonctionne. On a une transformation qui est réversible et on peut même avoir des machines thermiques réversibles. C'est ce qu'avait imaginé Sadi Carnot, qui a un peu fondé la thermo à 27 ans, avant de mourir à 36 du choléra. Non, pas du choléra. Sadi Carnot, il est mort de quoi? Et donc, quelque part, voilà. Donc ça, c'est quand c'est réversible. Et quand vous avez une augmentation de l'entropie. Choléra à 36 ans, dur quand même. Pour quelqu'un qui a fait un des livres les plus impressionnants de la physique, apparemment. Voilà. Production d'entropie zéro, réversible. Et par contre, s'il y a une production, s'il y a une augmentation de l'entropie, parce qu'il ne peut pas y avoir d'émission, s'il y a une augmentation, ça veut dire qu'il y a une irréversibilité. Et donc, ça veut dire que voilà, dans une situation où il y a cette augmentation de l'entropie, ben, si je vous passe le film à l'envers, vous pouvez vous faire une idée de ce qui s'est réellement déroulé. Et ça, on peut le voir par exemple. Si là je mettais tous les molécules de gaz dans un coin de la pièce, déjà je le vivrais pas très bien, je pense. Et puis après, bah, elles se répartiraient très rapidement dans tout ce volume. Et si je vous passais ce film, eh ben, si on suivait toutes les petites particules, ça vous paraîtrait évident que ça s'est fait dans cette évolution-là. Vous êtes jamais rentré dans une pièce et hop, toutes les molécules sont arrivées dans un coin. Par contre, si je sais pas, si vous tirez sur un piston, par exemple, eh ben vous allez avoir cette répartition qui va se mettre en place. Je sais pas si c'était un bon exemple, mais vous voyez un peu l'idée. Alors ça peut-être je peux vous montrer la vidéo de. Est-ce que je peux vous montrer la vidéo de Patience? Patience a fait des bonnes vidéos là-dessus, je pense, mais je sais plus si c'est dans des mondes de Maxwell. Et donc c'est vrai qu'une augmentation de l'entropie, c'est lié à ça montre dans quel sens jouait le film. Voilà, l'évolution se fait dans le sens où l'entropie augmente. Parce que y a des irréversibilités. Mais en fait, je ne sais pas à quel point cette information est pertinente quelque part, parce que c'est comme ça qu'on l'a défini à la base. Et les premières personnes qui ont défini l'entropie, suite au travail de Stadi Carnot, c'est notamment Clausius qui a travaillé sur l'entropie. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était, bah, il y a un sens dans l'évolution, il y a des irréversibilités, et je vais construire un truc qui va augmenter quand le temps passe, quoi, qui manifeste. Et donc ça a été construit comme ça, et il a proposé une quantification qui est voilà, une petite variation d'entropie, c'est une petite variation de chaleur divisée par la température. Donc la formulation de base, c'est ça, et en fait. Maintenant, on comprend mieux le fonctionnement qu'il y a derrière, notamment avec la thermodynamique statistique et l'approche de Boltzmann, etc. Mais à l'époque où Clausius propose ça, il comprend pas pourquoi c'est cette formule-là qui fonctionne, d'après la compréhension que moi j'en ai. Mais ouais, du coup, les concepts sont vraiment liés, mais c'est par construction. C'est par construction. Et j'espère que je raconte pas trop n'importe quoi. Go Nipa Lup. Il y a deux Sadi Carnot. Ouais, il y a deux Sadi Carnot. Effectivement, le président n'est pas le même que le physicien. Et il a vécu un peu plus vieux. Quoique. Attends. Ah non, in office, je regarde pas au bon endroit. 56 ans, ouais. Et attends, je crois qu'ils ont un lien de parenté. J'ai lu ça quelque part. Est-ce que j'ai lu là? Ou alors c'était sur le sujet du président? Je crois qu'ils ont un. Ah oui! Ah ouais, donc le Sadi Carnot, le physicien, c'est l'oncle de Sadi Carnot, le président. Lavoisier, Galois, etc. Du coup, je me suis perdu. Et cette vidéo est assez cool, et il explique vraiment ce. On va regarder ce passage. Voilà, je ne sais pas si ça vous donnera envie de regarder la suite, mais cette vidéo est assez cool. Rodolphe. Ah merde! Ah, il n'y avait pas le son. Ah mon Dieu, mais comment j'ai fait ça? Mais c'est pas possible. J'espère que vous avez aimé l'image. Est-ce que... Bah, pop, pop, pop. Ah, mais c'est comme les dernières fois, j'ai pas encore ajouté le son là-dessus. Ah, c'est bien, depuis tout à l'heure, vous n'avez pas mes notifications WhatsApp au moins. Est-ce que vous voulez que je le repasse avec le son? Putain, je suis vraiment pas bon, je suis désolé, les gars. On va le regarder deux fois du coup. Je vous le repasse. Allez, c'était 1 minute et quelques.
Dynamique.
Vous avez le son
On
là?
a déjà parlé de la notion d'entropie dans des vidéos précédentes, mais autant commencer ici par un petit rappel et en profiter pour aborder cette notion sous un angle différent
Ah, c'est
au
bon.
travers d'une...
Écoutez, je suis désolé. Pour ceux qui veulent le regarder, vous regarderez. Je suis désolé pour Patience du coup, qui nous a relu en plus. Très cool, très très cool. Et c'était vraiment sur cette question de flèche du temps et comment on pourrait dire ça? Alors, ça a quand même une importance, ce truc qui est quand vous voyez une transformation irréversible, c'est que de l'entropie est produite, quoi. Donc vous pouvez, quelque part, vous pouvez avoir une compréhension intuitive de... Ah, mais en même temps, c'est le cas d'un peu toutes les transformations réelles, quoi. Et ouais, je sais pas trop quoi ajouter de plus. C'est plus facile de dire ce que l'entropie n'est pas que ce qu'elle est. Et au moins du point de vue de la thermo, moi je le vois quand même comme une perte de travail potentiel, quoi. L'électricité que j'ai utilisée là, il y a 5 minutes, je peux plus l'utiliser maintenant. Elle est sous forme de chaleur dans cet environnement et je ne peux plus convertir cette chaleur en électricité. Donc il y a... Moi, je pense que la compréhension qui m'est utile, c'est vraiment ce truc-là de... C'est une transformation irréversible qui casse un potentiel de travail, qui fait que j'avais un truc avec lequel je pouvais faire un travail et je peux plus. Je peux plus parce que je l'ai utilisé, quoi. C'est vraiment ça, c'est... Voilà, le litre de carburant que vous avez brûlé aujourd'hui, ben, vous ne pouvez pas le brûler demain, quoi. Ça paraît un peu con, dit comme ça. Mais c'est parce que... Voilà, on pourrait faire... ok, mais la chaleur dégagée par mon ordinateur... Enfin, l'électricité utilisée par l'ordinateur a fini sous forme de chaleur, conservation de l'énergie, il y a encore de l'énergie. Et l'entropie vient dire... Le second principe vient dire, oui, mais... Cette énergie maintenant, elle est sous une forme désorganisée, désordonnée, elle est spread, elle est étalée, elle est dissipée. On ne peut plus l'utiliser pour refaire tourner cet ordinateur. Et ça, c'est vraiment ce truc-là de... C'est une irréversibilité dans le domaine des transformations énergétiques, quoi. C'est une dégradation de l'énergie. Donc voilà, je mets plein de mots les uns derrière les autres pour que vous ayez une compréhension à peu près abstraite. Et ça, je pense, c'est un peu le sens de l'entropie sur lequel on va se concentrer. Mais ça, c'est pas l'entropie, parce que l'entropie peut avoir d'autres sens dans d'autres domaines et peut couvrir d'autres notions. Donc j'ai l'impression que c'est un peu difficile d'avoir une définition qui est générale. Pas évident, pas évident. Et Tiglo nous dit, avec 100 de chaleur, tu fais pas 100 de travail. Alors, ouais, ça c'est une autre question qui est intéressante, qui est un peu la limite des machines thermiques. Qui est que pour qu'une machine thermique fonctionne, il faut une source de chaleur et une source froide. Vous pouvez pas convertir de la chaleur en travail sans différence de température. Parce que je vous dis, la chaleur, là, elle sert à rien. Mais en fait, si vous avez à côté un truc très chaud comme un réacteur nucléaire, eh bien, vous avez une différence de température et vous pouvez exploiter ça pour en tirer un travail. Mais le rendement maximum de cette machine-là, elle est liée à la température. Elle est limitée par la température de la source chaude et de la source froide. Ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les transformations de potentiel. Par exemple, si je vous dis, je reprends mon ascenseur qui a une certaine hauteur, là, vous avez une énergie potentielle qui est associée à ça. Et cette énergie potentielle, vous pouvez théoriquement la convertir 100% en électricité, par exemple. Et donc, les moteurs thermiques ont des limites qui particulières. Cette conversion de chaleur en travail, ça a des limites supplémentaires. Et c'est vraiment ça qui a motivé le début de la thermodynamique. C'est que, what the fuck, pourquoi les machines thermiques sont aussi nulles, quoi? Et surtout, au tout début, elles étaient en plus extrêmement inefficaces, mais il y avait quand même ce truc de... pourquoi on peut convertir que un si faible pourcentage de la chaleur en travail? La chaleur, c'est déjà un transfert d'énergie. Et justement, on veut une machine thermique, elle est, c'est un transfert d'énergie. Et quand tu fais un travail, c'est vraiment, tu veux un truc ordonné, tu veux déplacer quelque chose, etc. Et tu peux pas intégralement transformer cette chaleur, qui est une forme de transfert d'énergie, en électricité, par exemple. Ce qui serait une autre forme de transfert d'énergie. Parce que cette chaleur, tu es obligé de dégager quelque part la chaleur résiduelle. Tu es obligé d'évacuer une partie vers la source froide. Très dur, très dur, très dur à expliquer. Je sais pas comment je pourrais... Alors, d'un point de vue qualitatif, encore une fois, je sais pas ce que ça vaut, mais il y a cette idée de... Tu vois, si je prends mon ascenseur, en fait, je peux convertir tout ce que je veux parce que ce que j'ai là, c'est un mouvement qui est ordonné. Si je coupe le fil de mon ascenseur, désolé pour les gens qui sont dedans, l'ascenseur, il va pas hésiter, il va pas partir dans la direction, il va s'éclater sur le sol. Il descend dans le champ gravitationnel. Enfin, il suit, je sais même pas quel est le bon terme en physique. Et du coup, là, on exploite un mouvement ordonné de la matière. Donc, on peut le convertir en un autre truc ordonné. La chaleur, c'est plein d'agitation dans tous les sens. C'est pour ça que je peux rien tirer. Si c'était un gaz parfait, ça serait l'énergie cinétique, tout ça, théorie cinétique des gaz. Mais en gros, c'est plein d'agitation dans tous les sens. Et vu que c'est dans tous les sens, c'est pas ordonné. Donc, je peux pas l'exploiter pour faire tourner une dynamo. Par contre, si là j'ai plein d'agitation dans tous les sens et à côté j'ai une source plus chaude où il y a encore plus d'agitation, on sait que le chaud va aller vers le froid et donc on va avoir un déplacement entre les deux. On parle de façon très abstraite. Hein. Et ça on peut l'exploiter, mais en fait vu qu'il y a quand même un peu qui va dans tous les sens, on peut pas l'exploiter entièrement. Je sais pas si c'est plus clair. pourquoi j'ai accepté de parler de thermo? On aurait dû jouer aux jeux vidéo. Je suis en train de me ridiculiser, je pense. Au moins j'aurais gigoté devant une caméra. Attention, une machine thermique est un cycle. L'inégalité Clausius est une manière de reformuler le second principe. Ok, Tiglo. Je ne sais pas ce que j'ai dit qui contredit ça. Mais effectivement, la machine thermique, c'est un cycle. Ouais, là, on va dépasser ce que je sais faire clairement. Il y a un moment dans ce cycle où tu cèdes une partie de la chaleur à la source froide. Et Guillaume Michoko disait, c'est quoi la propriété particulière de la chaleur à part de ne pas pouvoir être reconvertie en une autre énergie? J'ai dit ça. Alors faut bien comprendre que ça peut pas être reconverti en une autre énergie si ta chaleur est uniforme, tu vois, si t'es à l'équilibre thermique, parce que comme on l'a dit juste après, quand t'as une différence de température, tu peux l'exploiter. Bon, et voilà. Et puis après, il y a des moments aussi trop marrants quand je travaille sur ces sujets où j'ai l'impression d'avoir découvert un truc incroyable, genre... Je peux peut-être vous montrer ça, comme ça vous allez rigoler. Et... Est-ce qu'il met le rendement, là? Voilà. Et y a ça, c'est l'efficacité d'un moteur thermique. Ça, c'est l'efficacité d'un moteur thermique. Et par exemple, au hasard, je crois que le circuit le, le circuit chaud d'un réacteur à eau pressurisée va être à 300 degrés, donc on va être à peu près à 600 Kelvin. Et si la température extérieure est à 27, on va simplifier la vie, on est à 300 Kelvin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Donc ça ferait 0,5. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rendement maximal de conversion de la chaleur dégagée dans une centrale nucléaire par les fissions et les désintégrations radioactives, la conversion maximale de cette chaleur en électricité, c'est 50%. Voilà. C'est comme ça, c'est limite de la thermo, c'est la limite des machines thermiques. On ne pourra convertir qu'au maximum 50% de la chaleur en puissance électrique. Et comme rien n'est parfait, et qu'il y a des pertes, et que c'est des systèmes compliqués, qu'il y a une partie qui est utilisée dans la centrale, etc., le rendement, il est autour d'un tiers d'une centrale nucléaire. Et si on voulait un meilleur rendement, il faudrait monter en température la source chaude ou baisser la source froide. Et c'est pour ça qu'une centrale fossile comme une centrale au charbon a un meilleur rendement qu'une centrale nucléaire. Donc vous voyez, il y a des petits trucs de thermo comme ça immédiatement qui sont hyper utiles. Et ouais, Tiglo, dans les faits, on est plutôt à moins de 30%. Ouais. C'est pour ça, le rendement max, voilà, c'est de la thermo, c'est sympa. Mais quelle est l'utilité? Ben, ça permet de voir peut-être qu'est-ce qu'on a sous le pied, et il peut y arriver qu'il y ait des systèmes qui soient proches de la limite thermo et d'autres où on a encore des marges de manœuvre. Et quand je commençais à réfléchir à ça, il y a un truc qui me paraît toujours marrant, c'est si vous me cédez de la chaleur, voilà, de 300 degrés à, on a dit combien, à 27, eh ben, je peux récupérer que 50% sous forme de travail. Mais si vous me cédez de la chaleur, la même quantité de chaleur de 27 degrés, et que moi je suis à 0 Kelvin, ma source froide est à 0 Kelvin, bah je récupère 100%, quoi. Je trouve ça incroyable. Et en fait, bah non, c'est juste, c'est comme ça qu'on a défini le zéro absolu. Si j'ai bien compris au début, l'échelle de température, on l'a faite comme ça. On a vu ça, on a fait, bah, du coup, le zéro absolu, c'est la température, on récupère 100%. Je sais pas si c'est clair. 0 Kelvin, c'est un infini qui se calme. Ce qui fait que physiquement, ça sera très dur de maintenir une source froide à 0 Kelvin. Et attendez, je me suis peut-être un peu aventuré. On va regarder comment échelle de température, échelle de Kelvin, définition du zéro absolu. Ça se trouve, je vous dis des bêtises. Faut que j'arrête de répéter ce que je comprends qu'à moitié. Bon, c'est pas ici que je le trouverai. Ah, construction. Zéro absolu. Température thermodynamique. Donc voilà, je suis pas trop mal. Bon, je vais pas retrouver exactement ce que je veux, mais il y a quand même ce truc de. Je m'étonne de trucs en regardant des formules. Je me fais des films dans ma tête et j'invente des trucs merveilleux. Et en fait, c'est juste comme ça par définition. Ce qui est cohérent, au moins. Son point d'origine ou zéro absolu correspond par définition à l'état de la matière où ses particules ont une entropie minimale, ce qui correspond généralement à une énergie minimale. C'est marrant. C'est marrant. Et Zouzou, alors ouais, peut-être les questions étaient avant que je précise, mais ouais, à toutes les centrales électriques, non. Enfin, les centrales nucléaires sont à 30%, mais si vous allez chercher des. Rendement central gaz à cycle combiné. Voilà, vous pouvez avoir des centrales au gaz à cycle combiné qui sont à 60%. Et pourquoi? Bon, cycle combiné et tout, ça. Mais vraiment, si vous augmentez la température de la source chaude, vous avez un meilleur rendement. Voilà, j'ai essayé de vous bricoler des trucs de tête avec ce qui traîne dans ma tête en ce moment, et que j'ai du mal à aligner dans un sens cohérent, et j'ai du mal à cerner aussi ce qui est le plus utile là-dedans. Et il y a toujours un biais dans ces sujets qui est, quand tu étudies un sujet, tu vois ceux qui en parlent, tu vois ce qui tourne autour, et ça te fait un peu perdre pied sur ce qui est important. C'est genre. Mais je me suis dit ça aussi sur la vidéo du taux de retour énergétique. Je pensais c'est vraiment un truc abstrait et un peu nul. Et au final, cette vidéo, je pense qu'elle est pas si mal et qu'elle a été plutôt bien reçue. Donc là, sur l'entropie, ce que je vous ai raconté pour les 100 personnes qui restent, mais vous êtes malades, les gars. Vous êtes vraiment malade. Qu'est-ce qu'il y avait intéressant là-dedans? C'est un peu ça. Quelles sont les idées les plus pertinentes, quoi? Déjà, est-ce que vous avez été exposé à des discours comme ça sur la Terre? Est-ce que vous avez des exemples aussi de ce que vous jugeriez comme des mauvais emplois de la Terre? Et 12 zouzous, ouais, c'est sans l'énergie d'extraction, etc. C'est vraiment, c'est le rendement de la centrale. On a une moyenne de 100 personnes, je pense, Ewin. Je suis pas sûr qu'on était à 1000. Mais chameau nonchalant, expliquer une première fois, c'est utile pour se mettre les idées au clair. Ah non, j'en suis plus là, j'en suis à expliquer la 50e fois. On s'explique entre nous. J'explique à ma compagne qui doit subir toutes les productions de vidéos, la pauvre. On se met d'accord avec Jean-Loup, on est sûr de notre coup, vraiment, on est serein, et puis on fait lire à des physiciens 3, 4, 5 histoires de. Ouais, 4, 5 qui connaissent pas mal le sujet, histoire d'être sûr, et puis on prend une petite fessée et c'est reparti. Mauvais emploi de la thermo, c'est genre les bombes nucléaires. Ça veut dire que ma voiture a un meilleur rendement quand il fait froid. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si ta voiture est un moteur thermique parfait, oui. Ouais. Après, dans la réalité, c'est un peu plus difficile. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si tu bouches le radiateur de ta voiture, tu vois, si tu n'as plus de source froide, bah là, ça va mal se passer, quoi. C'est sûr que ton moteur va pas très bien fonctionner. Et c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire que une machine thermique, ou même la société thermo-industrielle en général, elle ne peut pas fonctionner dans une boîte fermée pour plusieurs raisons, et une des raisons, c'est que pour que les machines thermiques fonctionnent, il faut réussir à dégager la chaleur, quoi. Penser que nos sociétés sont un système fermé, évidemment, ça n'a pas de sens, hein, parce qu'on récupère l'énergie de l'environnement, on récupère la matière, etc. Mais ça serait impossible, ne serait-ce aussi parce qu'on doit dégager la chaleur vers l'environnement. Et après, ça s'en débarrasse vers l'espace. Donc, si on n'a pas cette évacuation de chaleur, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, on dit source froide, mais je ne sais pas si une source c'est. Et donc voilà, pour exploiter un truc chaud, il faut un truc froid. Sinon, il n'y a pas d'exploitation. Donc ça veut dire que dans une chaudière, plus mon eau a chauffé et froide, plus elle a un meilleur rendement. Non, parce que la chaudière, c'est pas une machine thermique. Ça va pas transformer de la chaleur en travail. Ta chaudière, ce qu'elle va faire, c'est juste chauffer l'eau, quoi. Et donc là, par contre, tu peux avoir un rendement qui est très élevé, hein. En théorie, tu peux avoir 100% de rendement si toute la chaleur finit. Ouais, c'est vraiment la thermo, là, ce dont on a parlé. On s'intéresse. Au travail, quoi. Vraiment, et le travail, c'est toutes les actions mécaniques, mais aussi l'électricité, c'est une forme de travail, etc. Et on s'intéresse pas à la production de chaleur. J'en ai pas parlé beaucoup, en tout cas. La thermodynamique en général est un sujet suffisamment complexe pour qu'il n'y ait pas de discours dessus, chante. C'est vrai. C'est vrai que tout le monde n'y est pas exposé. Moi, ça fait des années que je lis des trucs là-dessus et que je voulais faire une vidéo et je sais même pas trop ce qui m'a convaincu de la faire maintenant. Après, c'est un sujet. Ouais, pour être honnête, par exemple, le taux de retour énergétique, c'était pas un sujet foufou parce que c'est des problèmes de définition, de périmètre et c'est une toute petite littérature et on fait dire beaucoup de choses qui sont pas très vraies. La thermo, c'est. Et je dis ça alors que je détestais en école d'ingé. Mais c'est intéressant. Vraiment, comprendre la physique derrière, c'est intéressant, je trouve. C'est un sujet que je ne regrette pas d'avoir étudié. Après, reste la question de la pertinence pour mon Dodima qui me finance. Alors, De Zozo dit alors oui et non, puisque l'air est plus dense, donc c'est mieux. Par contre, ton moteur est opti pour travailler à une température fixe, ce qui explique que ton ventilateur ne démarre pas de suite en hiver. Donc, tu as une perte de rendement. Intéressant. Navisly, c'est pareil avec mon PC, si j'éteins le ventilo, il ne peut pas fonctionner. Bah, tu peux essayer de ne pas mettre de radiateur sur ton dernier processeur et tu verras que ça se passe pas très bien. Mais c'est pas parce que c'est une machine thermique, c'est parce que tu vas pas évacuer la chaleur et ça va pas être chouette. Bah, Pendulum, après franchement, même la vidéo de Veritasium, je l'ai pas trouvé simple à suivre, donc bon courage à toi. Merci. Le coût de l'entropie qui pollue, je l'ai entendu quelques fois, je sais plus trop où. Et en fait, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que il y a quelques discours qui existent, qui sont un peu faux. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est moi, je, alors, j'ai plein de biais, et une partie des biais, c'est que bah, je regarde pas tout le monde tout le temps et j'ai pas une connaissance absolue de tout ce que tout le monde pense. Mais par contre, je donne quelques cours en école d'ingé, ce qui me biaise. Et en fait, c'est intéressant parce que la manière dont on explique la thermodynamique en école d'ingénieur, je trouve que ça peut donner des mauvaises intuitions pour penser l'évolution du système énergétique ou le système Terre ou le vivant. Et notamment, moi, je réfléchissais sur des machines, des optimisations, etc. Mais on m'a jamais présenté des réflexions en système ouvert, loin de l'équilibre et tout. Et du coup, il manque des notions, il manquait des notions de base pour appréhender ne serait-ce que ce qui se passe sur Terre comme grand phénomène dissipatif, quoi. Strict sur la thermo, j'avais trouvé François Rodier intéressant. Ok, moi j'avoue, j'ai moins accroché, et ça fait partie des mes motivations à creuser un peu plus la thermo. Je trouve qu'il va trop loin dans l'abstraction et dans l'association de différents concepts. Et j'oserais pas dire tout ce qu'il dit, quoi. Enfin, moi, dans une vidéo, j'irai pas jusque-là, quoi. Douzouzou, ouais, mais en école d'ingé, c'est un trauma parce que tu sais jamais comment le calculer, alors que quand tu le regardes juste pour comprendre, c'est quand même plus agréable. Ah, il y a peut-être une manière d'enseigner, ouais. Peut-être qu'on le fait trop à partir d'équations et pas assez à partir d'une compréhension plus qualitative qui serait quand même utile. Néo Durden, il y en a qui pensent que la possibilité d'une substitution des énergies pour les sociétés thermo-industrielles n'a pas été prouvée dans la littérature scientifique. Ah, j'ai la ref, j'ai la ref. J'ai la ref. Mais je suis bloqué maintenant, donc je ne peux plus lire les merveilles. Mais j'ai lu quelque part que. Je comprends pas l'argumentaire de cette personne, mais ouais, non, c'est clairement c'est une référence à Vincent Mignot. Mais dans son dernier post, il y avait Damien Salel qui montrait, je crois, apparemment qu'on peut faire des panneaux photovoltaïques avec des panneaux photovoltaïques. Et il a répondu que c'était pas la question et que la démonstration de la possibilité d'une transition énergétique devrait répondre à la question suivante. Est-il possible de produire des panneaux photovoltaïques à partir de rayonnements électromagnétiques provenant du Soleil? Donc faudrait montrer que c'est possible de faire un panneau photovoltaïque à partir de rayonnements solaires, mais sans panneaux photovoltaïques? Je ne comprends pas. Ouais. By Pandum, ouais. Il y a toute une partie qui s'appuie sur l'entropie, ouais, sur la thermo. Mais faudrait que je regarde. C'est quoi que tu proposerais du coup comme comme truc à regarder là-dessus? La thermoeconomics, le lien que tu as partagé, tu penses que c'est la meilleure introduction à ça? Aïe, aïe, aïe. Mais je crois que je vais pas trop aimer, quoi. Parce qu'on repart sur Leroy et... J'essaierai de regarder. Dodge Vise, j'imagine qu'il s'agit de voir si c'est durable. Est-ce qu'on peut tourner uniquement avec le photovoltaïque? En fait, c'est, alors ça serait un sujet intéressant. Et au début, on pensait un peu parler de celui-là. Après, c'est un peu repoussé. C'est un peu repoussé pour plus tard. Et peut-être ad vitam aeternam, comme certaines vidéos qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a des questions légitimes là-dedans. Et notamment, il y a une question de. Je dirais quelque part de métabolisme de notre système industriel. Vous voyez, pour l'instant, il y a des machines qui mangent du charbon, du pétrole et du gaz, et on pourrait se demander, ok, mais est-ce qu'elles peuvent manger autre chose? Voilà. Est-ce qu'on peut changer ce métabolisme du système industriel? Alors plus facilement que le nôtre, hein, parce que mes ancêtres, ils n'avaient pas de système industriel qui mangeait du pétrole et ils mangeaient la même chose que moi. Et moi, j'ai un système industriel qui mange des ressources fossiles et je mange la même chose qu'eux. Donc mon métabolisme à moi n'a pas beaucoup évolué alors que le métabolisme de nos artefacts, quoi, de nos constructions, de nos machines a évolué et peut évoluer. Quelque part, une voiture électrique, bah, c'est une voiture qui a un métabolisme énergétique différent d'une voiture thermique. Et donc on pourrait se demander si tous ces procédés peuvent se convertir. Et on pourrait se demander aussi, est-ce que une société qui reposerait par exemple sur de l'électricité pourrait construire les machines et les entretenir? Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que cette question qui est légitime, en fait, on y répond si on montre que on peut faire du photovoltaïque avec du photovoltaïque, par exemple. On montre que et il dit, bah non, ça répond pas. Et je comprends pas, je comprends vraiment pas quelle est son objection. Hein. Et je connais beaucoup de gens qui ne comprennent pas quelle est son objection. Mais ça, c'est des questions intéressantes de se demander à quel point on peut faire évoluer ce métabolisme énergétique, je dirais. Donc, comment fonctionne notre système et ce qu'il peut prendre comme forme d'énergie. Et à quel point, s'il était sous une forme d'énergie, s'il utilisait d'autres formes d'énergie, il pourrait se maintenir dans le temps. C'est intéressant d'un point de vue théorique. Après. Il y a quand même un problème un peu plus de fond qui est, à mon avis, c'est une question un petit peu théoriquement intéressante, mais en pratique qui a ses limites, et notamment, en fait, enfin, on peut se poser la question de cet état hyper lointain où on se dit, voilà, on veut dégager des ressources fossiles, est-ce qu'on arrivera à être entièrement sans? Et qu'est-ce que ça change, ça? Qu'est-ce que ça change? Parce que ce qu'on essaye de faire avec la transition, c'est de réduire l'utilisation des ressources fossiles le plus vite possible et au maximum. Et au final, même si l'État, il n'y a plus du tout de ressources fossiles, était inatteignable, ça ne changerait pas grand-chose à la trajectoire. Et je pense que le truc le plus intéressant pour les personnes qui veulent lutter contre la transition énergétique serait plutôt de démontrer qu'on ne peut pas réduire les émissions. Et c'est marrant qu'ils n'attaquent pas vraiment ça et qu'ils attaquent ce truc hyper lointain de on n'arrivera pas à effacer complètement. Mais mettons même qu'il y ait une raison, alors ce que je pense absolument pas, mais mettons qu'il y ait une raison qui fasse qu'on ne peut pas enlever entièrement les ressources fossiles, il n'y aurait aucune raison de ne pas les réduire au maximum. Donc. Ça change quoi? Et c'est toujours les mêmes arguments rhétoriques. C'est ouais, mais il y a ce truc lointain, mais est-ce qu'on pourra faire photovoltaïque avec photovoltaïque? Ou alors on vous place les chantiers hyper difficiles. C'est oui, ok, pour la production électrique qui représente la majeure partie des émissions, enfin une part importante quoi des émissions, on sait faire des trucs, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le transport maritime international qui consomme genre 1% de l'énergie dans le monde? C'est vraiment, les gars. Il y a un chantier absolument gigantesque on a à peu près les outils, on sait à peu près ce qu'on veut faire. Et y a un gars là qui vient et qui fait: ouais, mais la moulure au plafond là, vous êtes sûr que vous allez réussir à la faire correctement dans 35 ans? Sens des priorités, quoi. Et du coup, voilà, c'est des questions qui, de la manière dont elles sont posées et comme elles sont posées, me paraissent des objections un peu étranges compte tenu de ce qu'on doit faire. Surtout que faut pas trop se leurrer. Ce qu'on met en place aujourd'hui comme solution, c'était dur à envisager il y a 30 ans. En termes d'avancée technologique, en termes de réduction des coûts, vous regardez des projections d'il y a 15 ans sur les voitures, et vous pariez sur les voitures hydrogènes, vous regardez des projections d'il y a 10 ans sur le photovoltaïque, les coûts ont été explosés en réalité par rapport à ce qui était prévu. Donc les technologies qu'on aura dans 30 ans pour les dernières marches, il y a quand même peu de chances qu'on en ait une vision claire aujourd'hui, quoi. Et ça fait partie d'une sorte de fantasme de connaissance absolue du système. En fait, c'est des exigences qui sont indéfendables. C'est un niveau d'exigence qui est absurde par rapport à la manière dont on pense ces questions et dont les transformations réelles ont lieu, quoi. Gros laïus. Mais c'est des questions, du point de vue théorique au moins, c'est intéressant de se demander est-ce qu'on peut faire du photovoltaïque avec du photovoltaïque? Et la réponse, spoil un peu, c'est un peu oui quand même. Et surtout, la limite là-dedans, elle est pas thermo, quoi. C'est parce que vous pouvez convertir des formes d'énergie entre elles. Parce que de l'électricité, c'est du travail. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec de l'électricité? C'est un peu ça la question. C'est, je veux dire, avec de l'électricité, vous pouvez très bien. Aujourd'hui, avec de l'électricité, on sait faire des carburants liquides. Donc, si vous imaginez dans votre édifice mental qu'il y a un truc que seul le pétrole peut faire, bah, ça suffit pas en fait. Donc, ça faudrait développer. Ça peut être intéressant. Je sais pas. Je sais pas. Ça dépendra de la réaction. Mais ceci dit, pour aller dans ce sens, sur la vidéo sur le taux de retour énergétique, il y avait beaucoup de commentaires qui allaient dans ce sens. Enfin, avec ce type de questionnement. Bonjour à tous, le plus galère avec l'électricité, la conserver sans perte sur une longue durée. Ouais, c'est vrai, mais il y a des barrages réversibles, mais on peut la transformer en énergie potentielle chimique ou. Enfin, c'est. Ouais, je sais pas. Bref. Voilà, ce soir, c'était très qualitatif, c'était sans support. La question est mal posée, je dirais, quelle est la puissance dont l'humanité peut disposer avec des panneaux photovoltaïques? Ouais, c'est intéressant, mais là je pense que c'est vite répondu. C'est théoriquement, thermodynamiquement, bien plus grand que ce que l'humanité consomme aujourd'hui. Et le problème, ça va pas être l'énergie disponible, ça va être des questions économiques, techniques, politiques. Ou matériaux, par exemple, notamment en termes de flux, hein, ça peut être une vraie limite. Mais je sais pas si. Je vais demander. On va voir si ChatGPT il est chaud en thermo. Je vais lui demander. Quelle surface de panneau photovoltaïque faudrait-il? Il me prend une consommation énergétique mondiale de 170 000 TWh, efficacité des panneaux à 15%, ce qui est conservateur. T'as bien raison, mon grand. Ensoleillement moyen, selon les régions. 4 heures d'ensoleillement équivalent par jour, il n'est pas généreux, hein. Lui, il me dit, pour alimenter l'humanité, il faudrait 2,85 milliards de mètres carrés. Il peut mettre en kilomètres. Et ça représenterait 0,02% de la surface des continents. Donc voilà, je ne dis pas que c'est parfait comme calcul, mais c'est quand même un peu l'idée. C'est quand même un peu l'idée. Aujourd'hui, si vous avez que des panneaux photovoltaïques, ça ne prend pas une grande surface. Et en fait, on revient à ce que j'avais montré au tout début. Je suis désolé pour ceux qui étaient déjà là. On revient à ça. C'est ce flux-là, il est énorme. Ce flux-là, il est énorme. Vous mangez un peu moins de viande, ça serait bien pour plein de trucs. Même pour vous, même pour vous. Et vous remplacez ça par un peu des panneaux. Et voilà. Alors, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les questions d'intermittence, il y a les questions de matériaux, ça a posé la question du recyclage et tout. Mais ce monde-là, là, ce monde qu'on essaye de faire en sortant des fossiles, il est mieux à plein de points de vue. Les ressources fossiles, c'est un problème pour le climat, c'est un problème de pollution de l'air, il y a des saloperies à l'extraction qui sont gênantes, ça crée des problèmes de vulnérabilité hein, pour les pays qui n'en ont pas pour nous. Ça a quand même été le moteur de certaines guerres, etc. C'est pas ouf ce monde. Faut arrêter en fait d'être dans cette idée de on est dans un monde hyper cool et les ressources fossiles c'est un truc de ouf qui sont incroyables, c'est concentré et je sais pas quoi. Les ressources fossiles ça a eu leur utilité, ça reste extrêmement dévastateur. On l'utilise dans des machines thermiques qui sont très inefficaces. On peut faire mieux, voilà, on peut faire mieux et je pense que ça se verra de plus en plus. Finalement, c'est possible si on ne regarde que les flux énergétiques. Bah ouais, enfin, ce que disent les flux énergétiques, c'est que c'est pas impossible. Après, est-ce que c'est possible ou pas? À minima, c'est tendex, mais en même temps, si on regarde que les flux énergétiques, on sait que continuer sur les ressources fossiles, pour le coup, ça sera pas possible très longtemps. Alors on peut scraper le chignon sur est-ce que c'est vrai qu'il y a eu le pic pétrolier déconventionnel en 2008 ou je sais pas quoi, mais toujours est-il qu'on peut jouer les prolongations quelques décennies, au mieux quelques siècles en cramant tout le charbon, et puis c'est game over quoi. Donc si vous voulez, la limite thermo, elle existe beaucoup plus pour les ressources fossiles par exemple. Il y a un stock limité et on tape dedans un peu vite. Et ça se remplit très très lentement. Elle est beaucoup plus limitée là-dessus que sur le flux solaire. Je pourrais sourcer ChatGPT dans la prochaine vidéo. Non, ChatGPT, ça sert que pour les lives. ChatGPT n'est pas assez fort pour mes vidéos. Des fois, je l'interroge, c'est marrant. En vrai, il y a des trucs où il est pas trop mal. Genre. Quand je me souviens plus comment faire des calculs compliqués avec des trucs de troisième ordre et tout, je demande à ChatGPT en mode je sais pas comment résoudre ce truc-là. Et il me répond c'est normal, on peut pas le résoudre. Et ça me rassure un peu. Et comme ça, je perds pas des plombes à essayer de résoudre un truc que je pensais savoir résoudre, alors qu'en fait, c'est juste que c'était pas solvable. Ok. Alors, pour être tout à fait honnête, je commence à avoir mal au crâne. Donc, on va pas tarder à s'arrêter. Je ne sais pas si ce live était cool. On a tenu une centaine sur la thermo. Il faut que je sois en forme demain. J'ai encore du boulot. J'espère que vous avez aimé me voir me démener dans cette improvisation. Ouais, cette improvisation. Ne m'en voulez pas si j'ai dit des bêtises. C'est extrêmement probable. C'est extrêmement probable. J'espère que mes petites abstractions vous ont donné matière à réflexion et j'essaierai de faire une vidéo où il sera moins probable d'avoir des grosses erreurs. Grosse journée demain et après-demain et vendredi. Et voilà, faut que ça avance, faut que ça avance. En plus, j'ai dit à un superbe animateur que j'aurais des choses à lui faire faire lundi. C'est dans moins d'une semaine. Donc faut qu'il y ait des trucs fixés parce qu'il doit travailler sur de belles animations. Parce que une vidéo sur l'entropie et la thermo sans animation, c'est encore pire qu'une vidéo avec des animations en termes de compréhension. Donc voilà, faut que je speed et on essaye de faire ça au mieux. Mais c'est un sacré défi. Faut se lancer des défis dans la vie. Ce soir, vous n'avez pas le choix, je vous envoie chez Monté de Linguisticae. Vous pourrez lui dire bonjour de ma part Il doit voir à peu près qui je suis. Non, c'est vrai, il voit qui je suis. Et voilà, il joue à Among Us. Among Us. Among Us? Faut pas le dire trop vite. Et voilà. Donc, merci à vous. Demain, il y a des personnes qui m'insulteront sur ma compréhension de la thermo. Je le sens. Ça fait partie du jeu. Et c'est parti. Bonne nuit à tous. Profitez bien et à la prochaine.